Hello tout le monde, salut Réco, salut Alex, bienvenue sur Paris Central. On va parler de la dernière nouvelle de Kane. On va parler, est-ce qu'on n'a pas un problème de physique au PSG? Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose de Renato Sanchez, de tout un tas de choses. Salut à toi Laurent. Alors Alex qui est un gros geek du Portugal confirme pas ta news. Donc il faudrait que tu nous dises un petit peu plus où est-ce que tu as vu ces infos? Parce que lui, je pense qu'il est assez branché sur toutes les news portugaises et assez fan de Mourinho, donc il serait monté au cordeau si ça avait été le cas. Donc n'hésite pas à nous en dire plus si tu en as un petit peu plus. Comment allez-vous, messieurs?
Ça va. Surtout que la presse portugaise, c'est pas ce qu'il y a de plus faible. Donc, même si la presse portugaise viendrait à confirmer, tant que c'est pas officiel, je ne sauterai pas au plafond. Donc, mais non, mais par contre, j'ai pas vu la presse portugaise en parler là récemment. Donc, j'ai vu les infos sur RMC, mais j'attends plus avant de sauter au plafond.
D'accord. Et toi, Rico, comment vas-tu?
Ça va impeccable. L'info me plaît, donc elle est vraie.
Ok, d'accord. Alors, moi, je vais commencer par vous lancer sur ce qui est hot en ce moment. On parle de Harry Kane. Alors, le papier du Parisien est un petit peu plus large que Kane. Tout le monde a retenu Kane. Ça parle aussi de Osimhen. Ça parle aussi de Lukaku. Enfin, ça parle de recruter une pointure devant avec le départ de Messi. Déjà, qu'est-ce que vous pensez du profil de Kane? Je vous laisse commencer. Comment est-ce qu'il veut, Alex, tiens, pour commencer.
Bah, c'est le profil idéal, je pense. C'est le profil qui nous manque, du moins si on veut s'adapter à Mbappé, si on veut construire le projet autour d'Mbappé. C'est le profil qu'il nous faut. C'est un joueur, c'est l'attaquant peut-être le plus complet au monde sur les dernières années. Il sait strictement tout faire. Il sait jouer dos au but, il sait jouer en déviation, il sait être présent dans la surface. Voilà, c'est tout simplement un régal. C'est ce qui se fait de mieux, je pense. Donc, comment ne pas être heureux après de cette rumeur? Maintenant, je pense que tout club qui veut avoir un vrai numéro 9 ou plutôt un vrai point de fixation, un pivot et un 9 complet, tout simplement, s'intéresse à Kane. Donc, je pense pas qu'on soit les seuls. Manchester City était très proche de le faire signer il y a quelques années, ils n'ont pas réussi. Ça sera très compliqué de le faire venir, mais en tout cas, rien que par le profil. On voit que les pistes de Campos, c'est de trouver un vrai numéro 9. Et je trouve que c'est très important parce que c'est ce qui nous a manqué cette année. Et un mec voilà, pour jouer en pivot, pour soulager quand on est en souffrance, pour pouvoir jouer un peu plus haut parfois, c'est très important. Et je pense qu'au moins, on aura ça cet été.
Est-ce que tu vois des choses à rajouter, Rico?
Non, c'est assez complet, hein. Il a tout répété, puis il a tout dit. Et puis quand tu vois l'entente avec Son sur le côté, ou même d'Osimhen avec Vara, tu vois que ça peut être vraiment complémentaire avec un Mbappé. Donc ouais, non, ce serait bien. Après, je pense que voilà, hein, tout le monde spécule. Vu que Paris cherche un neuf et que c'est vraiment affirmé, bon bah voilà, on y va de tous les noms. Maintenant, on a Kane, on a eu Lukaku aussi qui est sorti. Donc ça va être un peu tous les noms jusqu'à finalement qu'on signe ce fameux attaquant, donc on verra qui on va signer, mais en tout cas, c'est sûr que tu peux difficilement dire non à Harry Kane, comme pour toutes les pour tous les points positifs que Alex a évoqués. Le seul petit bémol qu'on peut reprocher à Kane, c'est son, on va dire, le fait qu'il rate les grands matchs. Souvent, il est pas clutch dans les grands matchs, là où on l'attend, là où il doit être. On l'a vu avec Tottenham plusieurs fois, enfin déjà en finale de Ligue des Champions, on l'a vu en finale aussi avec l'Angleterre contre l'Italie, on l'a vu contre l'équipe de France là récemment à la Coupe du Monde. Donc c'est ce qu'on peut reprocher à Harry Kane. Maintenant c'est un monstre, hein. Clairement c'est un peu comme Benzema, c'est le genre d'attaquant qui sait tout faire. Donc clairement quand il te manque un numéro 9 comme au PSG, tu peux pas dire non à Harry Kane.
Et au niveau de la faisabilité, on sait qu'il lui reste, je crois, un an de contrat. Il lui reste un an de contrat.
Ouais,
Pour vous, c'est
c'est
le
ça.
bon moment, c'est le bon moment pour y aller, du coup?
Si tu veux vraiment avoir un nouveau challenge et passer peut-être un step supérieur, parce qu'on le voit avec cette équipe de Tottenham, il gagnera jamais rien et c'est un club qui gagne pas. Donc à un moment donné, si tu veux gagner des trophées et que tu aspires à mieux, soit tu finis en légende à Tottenham et tu fais toute ta vie là-bas, entre guillemets, parce qu'il a été prêté une fois, soit ben tu t'offres un vrai challenge, un vrai step dans ta carrière et tu veux aller gagner des trophées. Donc tout dépendra en fait de la volonté d'Harry Kane, mais il a les mains libres, hein, clairement, parce que Tottenham, si ils veulent obtenir de l'argent, ils vont devoir le vendre cet été, et sinon ben, il pourra partir dans un an dans tous les cas.
Et on sait qu'en plus les relations entre Paris Saint-Germain et Tottenham ne sont pas mauvaises, loin de là. Et donc ça pourrait se faire. Toi Barry, donc justement la piste Kane, on t'a pas encore entendu sur le sujet, et n'hésite pas à rebondir, comme je le rappelais dans le papier du Parisien, il parle pas seulement de Kane, il parle aussi de Osimhen et de Lukaku.
Ouais, Moi, la piste Kane, rien à dire. Hein. Je pense que vous l'avez bien résumé. Hein. Je pense que de tous les noms qui ont été cités au Paris Saint-Germain, c'est le meilleur neuf. Après, moi, je ne pense pas que ce soit le neuf idéal à Paris. Je pense qu'il y a un autre neuf, et c'est peut-être pas le meilleur de la liste, mais c'est un autre neuf que j'aimerais avoir à Paris. Mais en tout cas, Harry Kane, rien à dire. Hein. Que ce soit en remise, que ce soit dans le jeu, que ce soit en termes de but, que ce soit en termes de passe D, que ce soit dans la capacité de faire briller les autres. On l'avait avec Dele Alli lorsque Dele Alli était à son prime, entre guillemets, lorsque c'était encore un potentiel. Bon, on l'a vu qu'il avait une très très bonne relation technique avec Harry Kane. Mais en plus, entre-temps, Harry Kane a pris de l'expérience. Donc, rien à dire. Et en plus, il est dans sa dernière année de contrat. Donc, s'il veut partir, on sait que Levy a réussi à le garder une fois. Je ne pense pas qu'il arrivera une deuxième fois. Donc, c'est un grand oui. Maintenant, Lukaku, moi, comme je vous l'avais dit, depuis plusieurs saisons, moi, c'est un profil que j'aime beaucoup. C'est un neuf que je pense qu'il ferait beaucoup de bien à Paris. Je pense que c'est l'un des profils qui nous correspondrait. Après, maintenant, une réalité qu'il faut pas occulter, c'est que Lukaku, il est sur deux années successives très compliquées. Il a fait une grosse saison à l'Inter, mais juste avant, il était à United et c'était compliqué. Avant, il était à Everton et c'est là qu'il s'est révélé aux yeux du monde. Mais ce n'était pas non plus une explosion globale. Et juste avant ça, il était à Chelsea, avant de partir à Everton, et c'était très compliqué. Donc au final, Lukaku, il y a très peu de matière pour dire qu'il a une capacité à devenir très très grand. Après, c'est un bon attaquant. Hein. On l'a vu avec la Belgique, on l'a vu avec Everton, et on l'a vu encore avec l'Inter. Quand il est dans l'équipe parfaite, le jeu est parfait. Je pense que Lukaku, en point de fixation, est très 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 bon. Et dernière chose, moi je pense que le 9 que j'aimerais avoir à Paris, ça reste Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos qui, de par son âge, de par le profil, de par sa polyvalence et de par le potentiel qu'il peut atteindre au sein du Paris Saint-Germain, il me semble qu'il a 21 ans, si je ne dis pas de bêtises, Alex. Je pense que Gonçalo Ramos, ça serait le plus intéressant de tous les noms qui ont été cités, même si ce n'est pas le meilleur, même si je pense qu'Harry Kane et Osimhen sont meilleurs que lui.
Ouais, mais pour le coup, si tu entends la problématique compatibilité avec Kylian Mbappé, elle est beaucoup moins évidente avec un Ramos qu'avec un Harry Kane ou même qu'avec un Osimhen ou un Vlahovic, etc. Donc, c'est pour moi, ce serait vraiment pas la priorité par rapport à cette contrainte-là. Après, il y a l'autre nom du papier qui, moi, enfin, vous n'en avez pas parlé, mais qui, moi, me plaît aussi beaucoup, Osimhen. Kane, j'aime beaucoup le joueur, mais je trouve que par certains moments, il n'est pas assez décisif. Et comme le rappelait Rico, il y a certains matchs où il peut passer à côté. Ce n'est pas le joueur de qui tu peux attendre un coup d'éclat qui va réveiller l'équipe, en fait. Souvent, ce qui va réveiller l'équipe, ça va être lui. Et lui, il fait très peu d'erreurs. Il est dans un déchet quasi minimal. Mais ça, pour moi, il n'a jamais vraiment envoyé du rêve. Après, c'est ma lecture. Et c'est pour ça que si on, par exemple, on prend Osimhen, ça m'exciterait beaucoup plus. Et là, on parle en plus d'un joueur qui connaît bien, que Campos connaît bien, qui connaît bien la Ligue 1. Et la problématique qui est le Napoli, où ça serait beaucoup plus difficile de négocier. Est-ce que vous voyez.
Je voulais juste revenir sur l'histoire de la compatibilité entre Ramos et Kylian Mbappé. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Hein. Bien au contraire, je trouve que Ramos, bon, alors, il est encore en post-formation, hein. Ce n'est pas non plus un joueur finalisé, mais je trouve que Ramos, dans le jeu, il est très intéressant. Et au contraire, je pense qu'un Gonçalo Ramos et un Kylian Mbappé, ça pourrait très bien marcher. Après, comme je l'ai dit, ce n'est pas le meilleur. Ce n'est peut-être pas forcément le meilleur, mais je trouve que c'est le profil le plus compliqué qui coche plusieurs cases. Qui vont de la jeunesse, la possibilité de se développer au sein du Paris Saint-Germain, d'avoir un neuf qui va durer dans le temps avec l'équipe, en sachant que le marché des neufs est très fermé. Et non, dans le jeu, je pense que Ramos ferait beaucoup de bien avec
Moi, je pense pas parce que déjà, c'est pas forcément un grand joueur de tête ou en tout cas de ce qu'on a vu. Peut-être qu'Alex, tu vas pouvoir infirmer ou confirmer.
Là, je suis pas d'accord avec toi.
C'est pas, mais si tu compares à Kane ou si tu compares à Osimhen,
oui, un peu mais je dis que c'est pas le meilleur.
Alors Ramos, laisse-moi
pour
finir.
compléter, je pense
On
que
va écouter Alex. On va écouter Alex.
pour compléter, si c'est un joueur qui a un excellent jeu de tête. Maintenant, moi, je ne pense pas qu'il partira de Benfica pour moins de 80, voire 70 millions. Et je vous avoue que ça m'embêterait de mettre 80 millions sur Ramos, parce que, surtout si on peut en mettre 20 de plus sur Kane, qui a beaucoup plus de références au haut niveau. Bien que j'apprécie Ramos, c'est un excellent joueur, ce sera peut-être un futur grand attaquant. Mais je pense que là, à ce moment-là, il nous faut une vraie pointure. Et Gonzalo Ramos, bah, c'est sa vraiment que première saison à son poste en tant que numéro 9 en Liga Bwin. Il va sûrement finir meilleur buteur, mais je pense qu'il a besoin de continuité dans ce club-là pour progresser, parce qu'on l'a vu en Ligue des Champions, bah, ça a été compliqué contre lui, contre l'Inter, quand il a affronté des défenseurs d'un autre niveau que la Liga Bwin. Même contre nous, il ne m'a pas impressionné, contre la Juventus, un peu mieux, mais voilà, sur les gros matchs, il a encore un peu de mal à répondre présent. Il a eu un début de saison compliqué dans le jeu. Ça va mieux depuis la Coupe du Monde. Il a fait une Coupe du Monde contre la Suisse où il s'est révélé devant le monde entier. Maintenant, moi, je sais que Benfica va être très gourmand avec lui. Et s'il faut mettre vraiment le paquet sur un attaquant, je ne mettrai pas sur lui. Je mettrai sur un autre attaquant. Maintenant, je peux me tromper. Peut-être que dans 5 ans, et ça sera
ouais, le même. Mais la lecture, je ne l'ai jamais vu. Je l'ai beaucoup moins vu jouer que toi, mais je ne l'ai jamais vu être particulièrement bon dos au but. Je l'ai juste vu. C'est pour moi, c'est plus un joueur d'appel qu'un joueur de réception. Enfin, tu vois, c'est pas. Je le vois pas comme le neuf parfait pour accompagner un Kylian Mbappé où tu vas avoir à attendre justement de. Tu sais, c'est plus le joueur qui va profiter d'un joueur autour duquel tu peux jouer en remise que le joueur qui va être là pour remiser quoi.
Non, c'est vraiment un profil pivot qui peut être capable de jouer au but. C'est pas vraiment un genre de profondeur. Je pense que c'est vraiment un attaquant de surface. C'est vraiment le vrai numéro 9 dans la surface qui peut jouer en pivot. Je pense pas que ce soit un attaquant qui puisse prendre la profondeur, même s'il le prend de temps en temps.
Ok, d'accord. Bon, bah écoutez, j'ai peut-être une mauvaise lecture. Je l'ai vu jouer que 2-3 fois. Il y a un message qui me permet de passer à la suite. On nous dit que c'est un top entraîneur. Et avant de parler de l'entraîneur, il y a un constat qu'on fait souvent au Paris Saint-Germain, c'est les blessures. Les blessures qui sont récurrentes en février, en mars, en avril. À chaque fois, c'est le coach qui ramène son équipe médicale. Est-ce qu'il faudrait changer de stratégie ? Je propose à Rico de commencer.
Bah oui, complètement. Il faudrait juste prendre un staff compétent et le garder, peu importe l'entraîneur qui passe, ou au moins garder les hommes principaux. Après, s'il veut ajuster avec certains hommes, pourquoi pas, ou en rajouter à voir, ça se discute, ou en enlever même, ça se discute. Mais pour moi, il faut certains hommes compétents qui ne bougent pas, qui restent au club, qui connaissent bien le club, les infrastructures, la manière de fonctionner, et même avec les joueurs qui s'inscrivent dans le long terme. Par exemple, je ne sais pas, un Mbappé, après, ce n'est pas forcément le bon exemple, mais un Zaire Emery, par exemple, qui va grandir, etc. C'est bien d'avoir un suivi médical de kinés, de médecins qui les connaissent bien et qui vont évoluer avec eux. Donc, pour moi, c'est un staff qui doit s'inscrire dans la continuité, dans la durée, pour connaître les joueurs qui restent plusieurs années. C'est hyper important. Et on voit qu'au PSG, il y a un vrai problème à ce niveau-là, parce qu'il y a souvent une hécatombe de blessures. Alors, on en parle parce que ça tombe souvent en février-mars, au moment clutch de Ligue des Champions, où il faut avoir le groupe au complet. Mais en vrai, c'est chaque année la même chose, à plusieurs périodes dans l'année, voire même tout au long de l'année. C'est très rare qu'on ait le groupe au complet. Et quand tu compares avec des institutions ou même d'autres clubs, hein, tout simplement, à côté, tu vois que déjà d'une, ils sont prêts en février-mars. Il y a très, très peu d'absents en février-mars. Et puis même tout au long de l'année, il y a très peu d'hécatombes de blessures. Là où au PSG, c'est souvent un peu l'anarchie. Donc évidemment, pour moi, c'est une mauvaise stratégie, tout simplement, parce que, comme je l'ai dit au début, je pense qu'il faut avoir des médecins, des kinés qui soient là, tout un vrai staff médical qui soit là dans le temps pour accompagner tous les joueurs et les connaître par cœur, comme le club.
Marie, qu'est-ce que tu en penses? Peut-être faire l'analogie avec Pintus au Real, et il y a quelqu'un qui nous parle d'Aspetar et voir comment Aspetar s'inscrit dans tout ça.
Je pense que Rekobel a tout dit. Hein. Pour moi, c'est simple. Avoir un suivi des joueurs, c'est logique qu'il faut avoir un staff médical qui les a eus sur de longues années. Je vous prends l'exemple de Kylian Mbappé, ça fait 6 saisons qu'il est là. Il a eu combien de staff médical différents? Tu prends l'exemple de Neymar qui a des blessures récurrentes chaque année au même moment de la saison. Il a eu combien de staff médical? À un moment, il faut un suivi. Alors oui, il y a le dossier médical qui est mis en relation entre les différents services. Maintenant, un médecin qui te suit au quotidien sur de nombreuses années et qui a vu l'évolution du joueur, forcément, il sera plus à même à être compétent qu'un médecin qui a juste vu ton dossier. Après, ça reste que mon avis. Je suis pas médecin, donc je sais pas comment ça fonctionne. Après, sur les blessures, moi, j'ai une autre analyse, mais bon, je pense que je vais faire un mini hors sujet, donc je préfère me la garder. Mais j'ai regardé un peu la charte de la LFP. Et c'est vrai que quand tu regardes la charte de la LFP et tu regardes la charte de ce qui se fait en Europe, ailleurs, tu te dis qu'il y a un réel décalage. En France, il faut savoir une chose, c'est que tu es limité dans le temps d'entraînement que les joueurs peuvent avoir. Tu es limité dans le temps de repos que les joueurs peuvent avoir, contrairement à d'autres. Là où les autres peuvent avoir un entraînement le matin, un entraînement l'après-midi, en France, tu n'as pas la possibilité de le faire car tu es limité en termes d'heures. Et on le voit dans les gros matchs à forte intensité, je suis désolé. On nous disait qu'à l'époque de Zlatan, etc., bah, ça marchait, mais à l'époque, tu n'avais que des professionnels et tu te rends compte que depuis 2017, bah, je pense pas que les entraînements ils ont chuté, en sachant qu'ils avaient Unai Emery qui lui est un entraîneur qui voulait avoir qui misait énormément sur le physique à l'entraînement, et Tourelle pareil, et tu te rends compte que les joueurs ils étaient carbo à la 70e. Donc pour moi il y a un réel problème. Et quand tu regardes un peu ce qui s'est passé avec tout ce qui est les syndicats des joueurs, etc., bah tu te rends compte que Je pense que la charte en France, elle est un peu plus compliquée pour un club qu'ailleurs, quoi. Tu prends l'exemple de
Ouais, je sais pas, après, tu vois, en Angleterre, ils ont plus de matchs.
Non, mais ils ont une plus grosse souplesse d'entraînement aussi. En Angleterre, tu peux te permettre de faire un entraînement le matin, un entraînement le soir. En France, tu ne peux pas. Et ça, quand je l'ai appris, j'ai dit, bah, c'est pas possible. Et je suis parti vérifier. Et oui, en France, tu es limité dans ton temps d'entraînement. Voilà, maintenant, vous le savez.
D'accord. Bah, je ne savais pas. Alex, quelle est ta lecture sur le sujet? Est-ce que tu penses, et puis au-delà de ça, au-delà du fait de changer de préparateur physique tous les ans, en fait, hein, enfin tous les ans, presque maintenant, mais à chaque fois qu'on change de coach, est-ce que tout simplement, on arrive à trouver le bon? Parce que les pics de forme en février-mars, nous, on ne sait pas ce que c'est, en fait, non?
Clairement, c'est vraiment, et j'ai pas grand chose d'autre à dire que ce qu'on dirait Koba ou Barry, mais ouais, c'est tous les grands clubs, tu vois très bien, qui sont prêts quand ça compte, tout simplement, donc au mars-avril, et nous, le PSG, pas du tout, et je pense que bah, c'est un problème de compétence, de je sais pas, moi, quand Campos s'est arrivé, je pensais aussi qu'il allait modifier ça, parce qu'il a répété maintes et maintes fois qu'il aimait trouver des spécialistes et des spécialistes, en gros, qu'il aimait, par exemple, prendre le meilleur kiné possible, même si c'est un Norvégien, prendre le meilleur, je sais pas, scouting, s'il est portugais, enfin voilà, c'est lui, c'est à ce qui paraît, voilà, il se considère comme le meilleur chercheur des spécialistes du monde entier, et au final bah, on a les mêmes problèmes cette année, donc c'est vrai que je l'attends là aussi, je l'attends pas que sur les recrues, je l'attends aussi sur tout ce qui est entraîneur et tout son staff, et c'est vrai qu'il y a un vrai problème au niveau de la préparation physique, pardon, du fait d'arriver à son pic de forme lorsque les matchs comptent vraiment.
Alors très rapidement, il y a Laurent PSG qui en parlait. Il disait que en gros c'est Abola qui est l'info qu'ils ont repris par RMC, mais c'est ce que tu disais au début. A priori, il n'y a pas eu trop de trucs depuis. Et très rapidement, ouais, Aspetar, bien sûr. C'est juste un centre qui est formidable, mais bon, comme tu en as pris conscience, il est au Qatar et il est formidable. C'est-à-dire que c'est formidable pour guérir une blessure. La problématique là, c'est pas la guérison d'une blessure. Là, c'est la problématique, c'est le suivi justement sur une saison et la capacité à optimiser tes performances au mois de février-mars comme ça compte et ce qu'on n'a jamais su faire. Mais du coup, Alex, on sort pas vraiment du sujet de l'infirmerie, puisqu'on va parler de Renato, et comme t'es portugais, je m'en profite pour te lancer, toi, sur ce sujet-là. Est-ce que tu crois encore à Renato pour la saison prochaine?
Si c'est mon cœur qui parle, je croirais toujours en Renato, parce que c'est un joueur qui me fait rêver depuis qu'il a 17 ans, 16 ans, 15 ans même, depuis que je le suis chez les U17 du Benfica, et forcément, je croirais toujours en lui. Maintenant, si je prends du recul et que je suis un peu plus objectif, non, j'y crois plus. Il a 25 ans, j'y crois plus. Pourquoi? Parce que si ça aurait été qu'une seule année comme ça, enchaînement de blessures, bah, j'aurais dit vas-y, c'est pas grave, ça arrive une fois. Il y a plein de joueurs qui, sur une année, bah, se sont blessés et se sont ensuite remis en forme. Là, Renato, ça fait comme depuis 2016 qu'il n'arrive pas à enchaîner les saisons. Donc, c'est compliqué d'y croire, parce qu'il n'enchaîne pas les performances, il n'enchaîne pas les matchs. Il se pète même sur une passe, sur des accélérations. Enfin, je pense que son corps a tout simplement abandonné. C'est comme ça. C'est frustrant, mais j'ai eu des cas précédents avec des Gourcuff, avec des Diaby, des Pastore sur la fin de sa
Pastore n'a jamais été autant blessé que jamais. À partir de la Roma, ouais, mais avant, n'a jamais été autant blessé que Sanchez.
Oui, mais je veux dire par là, c'est qu'une fois que ton corps te lâche réellement, je pense qu'il n'y a pas de retour en forme. Et malheureusement, je pense que Renato, à 25 ans, ça va faire que s'empirer, justement.
Et même à force de se blesser aussi, il y a le mental aussi qui va rentrer en compte. Et là, je pense qu'aujourd'hui, les blessures de... C'est Galtier d'ailleurs qui expliquait lorsqu'il était à Lille qu'en fait, les blessures de Renato étaient avant tout d'abord musculaires. En fait, ses muscles n'arrivaient pas à suivre son explosivité. Il mettait tellement d'agressivité sur ses muscles que voilà, ça se contractait, donc ça se blessait. Et au final, ils sont arrivés à la conclusion que par rapport à ça, à force d'avoir énormément de blessures, bah, le mental avait lâché. Et quand le mental il lâche, forcément, le physique va suivre.
Et en fait, pour te compléter, Barry, il a même dit qu'en fait, il se mettait une pression énorme. Et en fait, il avait raison quand il disait qu'il se blessait souvent deux semaines ou une semaine avant la liste du Portugal. Et en fait, il se mettait une telle pression pour être convoqué qu'il se pétait en fait tout seul. Et à force, bah, ça a empiré les choses. Et c'est vrai que bah, là, on le voit au PSG, j'ai l'impression qu'il se met encore une pression pour montrer comme quoi il a le niveau pour jouer dans un grand club. Et aujourd'hui, bah, cette année, c'est catastrophique. Donc, je pense vraiment que dès qu'il veut prouver... Dès qu'il se met une pression, bah son corps lâche. Et donc, pour moi, la meilleure chose à faire, c'est qu'il retourne dans son club d'enfance, dans son club de cœur, qu'il retourne au pays pour qu'il joue sans pression, qu'il joue que pour le kiff. Et je pense qu'à partir de là, peut-être, il pourra enchaîner les matchs. Mais tant qu'il jouera dans des grands clubs, tant qu'il se mettra une pression surhumaine, son corps ne suivra plus.
Ou alors, il faut un préparateur mental aussi.
Ouais. Bah, je vais laisser Rico réagir s'il veut.
Alors, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Alex. Moi, c'est un joueur que j'adore. Tu vois qu'il a un potentiel énorme. Il a vraiment beaucoup de qualités. C'est dommage parce qu'au PSG, on aurait vraiment besoin de ces qualités-là. Mais effectivement, je pense qu'au bout d'un moment, en fait, c'est le mental qui a lâché aussi. Et physique en mousse plus mental en mousse, forcément, c'est compliqué. Il revient, il joue deux matchs à peine entier et puis il se reblesse. Ouais, c'est terrible. Mais je pense aussi qu'il y a peut-être une chance et que s'il y a chance, c'est certainement pas dans un grand club parce qu'il y aura encore cet aspect pression. Là, on est allé le chercher à Lille. C'était un peu pas sa dernière chance, mais après avoir raté le Bayern, il avait un passage encore dans un grand club au PSG. Donc, il s'est mis, je pense, la pression aussi. Bien sûr. Mais il y a cet aspect encore plus pression au PSG, puisqu'il y a, on va dire, il y a une deuxième chance dans un très grand club. Et du coup, bah, ça ne lui a pas réussi. Donc, effectivement, il faudrait qu'il se relance dans un club où il aura moins de pression, où il pourra se soigner et jouer tranquillement. Et puis, peut-être que s'il arrive à enchaîner les matchs, il y aura cet aspect mental qui ira mieux. Et peut-être qu'il arrivera à avoir une troisième chance. Mais ça me paraît compliqué. En tout cas, d'un point de vue PSG, j'aurais évidemment vendu.
Et puis d'ailleurs, okay. On a oublié de dire quelque chose. Vas-y. Le marché déloxé. Hein. Il dérègle le marché déloxé, donc il faut qu'il bouge de la ville.
Le marché déloxé.
Le marché déloxé, il ne va pas dérégler mon marché encore très longtemps. Merci de.
Ah oui.
De
très long.
Merci de la ville, monsieur. D'ailleurs, attention à Nuno Mendes parce qu'il peut peut-être même suivre le même chemin. Hein. Il est un peu dans le même style. Jeunes,
oui, mais pas. C'est pas la même chose. Déjà, ouais. Il revient. En fait, Nuno Mendes, tu vois, par exemple, typiquement, quand tu parles de Renato Sanchez, au niveau mental, t'es pas sûr qu'il y ait quelqu'un. Nuno Mendes.
Non, évidemment.
Et tu sais qu'il y a quelqu'un. Le mec, c'est vrai qu'il se blesse trop, mais tu vois qu'il fait tout.
Et pour c'est le même type de blessure.
C'est vrai qu'on peut lancer après, mais tu vois qu'il fait tout pour revenir. Tu vois qu'il fait tout pour revenir le plus vite possible. Et quand il revient, il est tout de suite OP en fait. Il est tout de suite OP. Il n'y a pas cette période de truc. Alors après, oui, il est très jeune. Il a 20 ans, mais parle pas de malheur. Arrête de suggérer des choses qui sont des mauvaises idées. Dis pas de trucs pareils.
Moi, je suis d'accord avec Robert parce que je voulais le lancer, mais c'est vrai que le sujet de Nuno Mendes, on n'en parle pas beaucoup. Mais depuis même, avant même qu'il arrive à Paris, les gens ne se rendaient pas compte. Moi, je regarde quand même pas mal la Liga NOS. Et il était souvent blessé, le Nuno Mendes. Hein. Regardez son passif de blessure. Il est très souvent musclé. Et ce n'est pas des blessures dues à des fractures comme tu peux l'avoir avec Neymar. C'est des blessures musculaires. Et les blessures musculaires, quand tu les as très jeunes, en général, tu as beaucoup de mal à les contenir plus tard.
C'est un truc que j'avais souligné déjà depuis 2-3 ans. Les gens avaient du mal à me croire parce que c'est vrai qu'il ne loupe pas beaucoup de matchs. Mais le nombre d'entraînements qu'il loupe, c'est affolant. Et les gens ne se rendaient pas compte parce qu'ils ne suivaient pas forcément le Sporting. Et en fait, depuis, il a eu les croisés. Il a eu les croisés très jeunes. Il a eu les croisés à 15 ans. Et je pense que, il s'est fait les croisés avant l'Euro U17. Donc, il doit avoir 16 ans. Il s'est fait les croisés. Et je pense que depuis ce jour-là, il a peur, énormément peur. Et tu le vois à chaque contact. Dès qu'il a un contact, il reste énormément de temps au sol. Enfin, à chaque fois, tu flippes, t'as l'impression qu'il s'est pété la jambe. Et au final, pas du tout. Mais ça ferait que il loupe beaucoup d'entraînements, beaucoup de matchs parce qu'il y a une blessure, même minime, et il va avoir peur. Et je pense qu'il y a un vrai aussi, une préparation mentale à faire sur Nuno Mendes parce qu'il a que 20 ans. Et c'est vrai qu'il a tendance à se claquer beaucoup rapidement. Et même si auparavant, il loupait pas beaucoup de matchs, il loupait énormément d'entraînements au Sporting où il était souvent mis au repos pour pouvoir être là le week-end. Et ça, c'est vraiment à 20 ans. Ça peut être gênant pour la suite de sa carrière.
Mais après toi, j'ai envie d'avoir une pensée optimiste. J'ai envie de dire le monde est bien fait et un joueur comme ça, il aura cette petite blessure pas trop gênante le long de l'année, mais il durera très très longtemps parce que c'est un fur et classe. Pour conclure vite fait sur Renato, moi je ne vais pas cacher, hein, quand tout le monde s'enthousiasmait, quand il commençait à apparaître en international, moi j'étais, je ne comprends pas pourquoi tout le monde en parle parce que je le trouvais nul. Et donc c'est jamais un joueur que j'ai apprécié. Après, là, c'est les blessures, c'est un autre débat et on ne va pas en parler, mais clairement, pour Paris Saint-Germain, c'est plus le niveau. Et alors là, il y a Shaoui qui nous dit « Kane, c'est 100 millions, tu payes comment ?» Ce qu'il faut comprendre, c'est que le fair play financier se joue beaucoup au niveau des salaires maintenant avec l'instauration d'un salary cap, ou je ne sais plus s'ils l'ont appelé exactement comme ça, mais en gros, ça va beaucoup jouer au niveau des salaires. Tu as forcément Messi qui va partir, tu te libères une masse salariale et au niveau de l'argent des transferts, c'est pas aussi punitif le FPF, donc ce serait pas ça le problème, ce serait le salaire. Et est-ce qu'on veut mettre autant d'argent dans un seul joueur, et le débat se situerait plus là financièrement.
Et juste pour compléter, pour dire une dernière chose sur Nuno Mendes, et c'est vrai que c'est un truc que j'étais en train de penser en parlant, il a même pas encore fait de il a fait qu'un seul match de Coupe du Monde et de Coupe d'Europe. Lors du championnat d'Europe, il a pas joué parce qu'il était blessé. Il s'est blessé durant la préparation et du coup il a pas pu jouer les quatre matchs. Et là, la Coupe du Monde, il s'est blessé. Donc,
c'est pas grave.
C'est vrai que c'est.
Donc, il est là pour Paris, c'est pas très grave.
Si, si.
En fait, pourquoi le débat il existe ? Parce que regardez, là, Nuno Mendes, oui, je crois qu'il a 22, 23 ans. D'accord ? Donc, là, actuellement, son corps, il est en récupération. Voilà, son corps récupère très, très vite. Passé 25 ans, on le sait. On le sait, c'est plus compliqué de passer 25 ans. Tu restes jeune et frais jusqu'à 30 ans, 31 ans. Sauf que si à 22, 23 ans, tu as énormément de blessures musculaires et tu n'arrives pas à endiguer ça, bah plus tard, ça va être compliqué. Rappelez-vous, tu parlais de Lionel Messi, Z. Je vous invite à revoir ce qui s'est passé avec Messi à Barcelone. Messi, lorsqu'il avait 19 ans, il se blessait pas mal au niveau musculaire. Qu'ont fait les préparateurs de Barcelone ?
C'est quand
ils lui ont demandé. Non, ouais, il y avait les piqûres, mais même ils se blessaient même de base. Donc, ce qu'ils lui ont fait, ils lui ont demandé de plus dormir, d'arrêter les pizzas, etc. Et surtout, de manger beaucoup de poissons. Et donc, il y a une vraie préparation physique pour avoir un Lionel Messi qui, aujourd'hui, à 35 ans, se blesse pas énormément, mine de rien. Même si son niveau a baissé au vu de l'âge, mais il se blesse pas énormément.
On rejoint le débat de départ, hein, qui est avoir un préparateur physique. Et puis même, mais c'est un point qu'il
met. Parce qu'à force de se blesser… À force de se blesser, tu le disais tout à l'heure qu'il avait un gros mental, mais à force de se blesser,
je suis d'accord, Barry. Non, mais j'étais pas en train de disqualifier ces arguments. J'étais juste en train de dire, on vit dans un monde qui est bien et un tel joueur va bien pouvoir jouer pendant longtemps. Mais je sais que j'ai une naïveté par rapport à ça. Mais là, ce que tu viens de dire, ça met en avant le débat qu'on avait tout à l'heure et qui va au-delà même du préparateur physique, qui sont des nutritionnistes, qui etc. etc. Mais en tout cas, traiter le corps de l'athlète comme son outil de travail. Le prendre pour l'optimiser par rapport à son travail qui est de jouer au foot. Et c'est quelque chose que, année après année, on ne sait toujours pas faire et ça remet ça en avant. Quoi. Alors, je vais inverser un peu les questions qui suivent. Et on va commencer par Barry. Est-ce que tu virerais tous ceux qui ont été recrutés en 2022 ?
Est-ce que tu peux juste répéter ? J'ai pas entendu.
Est-ce que tu veux virer tous ceux qui ont été recrutés en 2022 ?
Non, moi, je pense qu'il faut un peu arrêter de calmer. Il faut un peu se calmer avec ces histoires de… Chaque année, il y en a un qui n'a pas donné satisfaction, il faut qu'il dégage. Non, non. Des fois, il y a des joueurs qui ont besoin d'adaptation. Il y a des joueurs qui n'étaient pas forcément dans le bon mental. Après, tu en as d'autres qui sont complètement claqués, tu vois. Moi, je peux te dire une chose. Renato, j'étais très optimiste avec son arrivée. Maintenant, je me rappelle, on avait fait un live, il y avait Alex, si je ne dis pas de bêtises, et on avait tiré la sonnette d'alarme sur ses blessures. Par contre, on était très optimiste sur le niveau de jeu. Et on l'a vu, la verticalité qu'il apporte, c'est quelque chose qu'il devait apporter au Paris Saint-Germain et qu'il n'a pas apporté. Donc moi, personnellement, Renato, vu des blessures, oui, Renato, c'est une possibilité de le laisser partir, je le laisse partir. Vitinha, je pense qu'il a montré de très belles choses au Paris Saint-Germain, il en a montré de très mauvaises aussi. Maintenant, Vitinha, je ne pense pas que ce soit un joueur qui est très mauvais. Je pense que lui, il est arrivé dans une saison d'adaptation, c'est compliqué pour lui. Il passe. De, je ne vais pas dire un petit club parce que Porto est un immense club en Europe, mais c'est vrai qu'aujourd'hui Porto est un peu plus bas que Paris Saint-Germain et il arrive dans un club qui est en plus qui est réputé pour les strass et paillettes avec un vestiaire gangréné par de la starification. Donc c'est assez compliqué. Je pense que lui, je pense que la saison prochaine il sera peut-être un peu plus libéré ou en tout cas peut-être que la saison prochaine il sera sur le banc au vu des joueurs qui vont arriver, mais en tout cas lui je le conserve. Soler, moi voilà, je vous l'avais dit au début de saison, je ne le connaissais pas assez. Mais du peu que j'avais entendu parler de lui, c'était lunaire de le voir arriver. Soler, lunaire, il avait entendu. Mais je trouvais ça lunaire. Donc Soler, pour moi, il n'avait rien à faire au Paris Saint-Germain, tu vois. Le gars, il s'axait côté gauche, donc il était censé être le remplaçant de Neymar. Voilà, Neymar Soler, tu passes de la fusée au vélo à quatre roues, tu vois. C'est rien à dire. Le gars était complètement éclaté contre un mur. Donc je ne vois pas pourquoi il était là. Maintenant, la réalité, c'est qu'il a fait des bonnes choses. C'est le milieu qui a le plus marqué. On ne s'en rend pas compte, mais c'est le milieu qui a le plus marqué. Donc voilà, il peut apporter au Paris Saint-Germain. Mais voilà, j'ai du mal à le voir dans un projet d'avenir. Ruiz, il m'a complètement déçu. Je m'attendais à beaucoup plus de lui. Il m'a montré à certains moments qu'il était très, très bon, mais il m'a complètement déçu. J'avais fait une grosse propagande sur lui. Donc, je ne dirais pas que je le laisse partir, mais vu qu'on a vu les infos comme quoi il demandait un bon de sortie, s'il veut partir, bon courage à toi. On essaie de récupérer 15 millions et puis bon que tu as ça à toi. Mais non, je ne virerai pas tous les joueurs qui sont arrivés. Non, pas forcément.
Ah oui, c'est pas grave, c'était pas viré, mais c'était plus. En fait, laisse-moi finir. Quand je dis viré, c'est plus le ton trollesque, mais à l'arrivée, un bilan des joueurs de 2022. Et Reco, vas-y, à toi, fais ton bilan des joueurs de 2020.
Juste Ekitike, je le prêterai pas.
Ah oui, ce serait pas pour Ekitike, tu l'avais oublié, je l'ai dit long, ça.
Quasiment pareil, hein. Moukile, déjà je garde évidemment, il peut jouer à droite et dans l'axe, en plus il a été très très bon, donc il s'est bien adapté, bonne mentalité, rien à dire. Alors attention aux blessures, mais encore une fois, on a vu à Leipzig, il y a eu quelques blessures, mais beaucoup moins qu'au PSG, et bon, à se demander si c'est le problème, c'est le PSG ou pas, mais bon, en tout cas Moukile, je garde. Vitinha, je garde aussi parce qu'il y a eu du bon, du moins bon, mais c'est compliqué pour un joueur comme ça. Il change de championnat, il est très jeune. Il a eu une expérience par le passé en Angleterre qui n'a pas été très concluante. Donc là, il change une nouvelle fois de pays, ce n'est pas évident. Et il arrive dans un contexte compliqué, dans un milieu, voilà, c'est un peu délicat, le milieu du PSG, on le sait. Donc ce genre de joueurs-là, ils sont censés arriver dans une rotation avec des cadres, avec des joueurs qui… Tu vois, petit à petit, et Vitinha, il a été jeté un peu voilà, dans la fosse au lion. Il a dû se débrouiller. Ça a marché un temps. Maintenant, sur toute une saison, c'est un peu délicat. Il a des qualités indéniables pour le coup. Donc, Vitinha, personnellement, je le garderai dans une rotation en lui ajoutant des cadres, de la concurrence à côté. Pour Ruiz et pour Renato, déjà, je vends, évidemment. Et pour Ruiz et Soler, personnellement, celui qui m'a le plus déçu des deux, c'est Ruiz. Celui-là, je le vends, clairement, si tu peux en tirer. Surtout qu'on va avoir besoin d'argent, en fait. Donc, à la limite, même Ruiz et Soler, si tu peux vendre les deux, tu vends les deux. Mais si je dois en garder un, personnellement, ce serait plus Soler parce que je le trouve meilleur dans les duels. Je trouve qu'il apporte un peu plus au milieu. Et je pense qu'avec un vrai numéro 9 devant, avec un peu plus d'appel devant lui, un peu plus de possibilités, et avec sa vision du jeu, je pense qu'il pourrait faire de bonnes choses, de bonnes passes décisives. Et c'est ce qu'il a déjà montré à Valence. Malheureusement, avec les joueurs qu'il a devant lui au PSG, c'est compliqué. En plus de ça, il y a Messi qui est souvent dans sa zone, etc. Donc, ou Neymar quand il jouait. Donc, faut se mettre à la place du joueur. Et par rapport à son style de jeu, c'est délicat de jouer dans ce PSG-là. Maintenant, avec plus de profondeur dans notre jeu et des joueurs différents autour de lui, je pense qu'il serait meilleur, à défaut, par rapport à un Fabian Ruiz qui, lui, par exemple, voilà, n'apporte strictement rien et gagne aucun duel au milieu. Donc, si je dois en vendre un des deux, ce serait Ruiz. Maintenant, si on peut vendre les deux, évidemment, je vendrai les deux. Et je finirai par Ekitike, que je prêterai parce que voilà, je ne vois pas trop l'intérêt, à part si tu peux le mettre dans la transaction avec un joueur dont tu as besoin, par exemple un numéro 9. Là, oui, je le vendrai. Mais sinon, autant le prêter. Je pense que ça ne sert à rien de le vendre à perte.
Avant de te passer la parole, Alex, il y a Zizou qui nous demande comment va Tonton. Bah, Tonton va très bien, et c'est juste qu'il n'est pas là ce soir parce qu'il ne fait pas tous les lives, mais il sera sans doute là au prochain. Stay tuned, tu le reverras. Alex, même question. Ton petit bilan sur 2022.
Bah, pas
les joueurs, les recrues 2022, pardon.
Oui, pas de souci. Bah, pas grand-chose d'autre à rajouter. Ils ont un TC complet. Maintenant, ce qu'il faut résumer, ce qu'on aime bien dire, c'est qu'il n'y a pas de mauvais joueurs, il n'y a que des mauvais contextes. Ça, je trouve que c'est réel. Maintenant, il ne faut pas non plus comment dire, défendre tous les joueurs par rapport au contexte. Il y a des choses où le contexte n'a aucun rôle. C'est-à-dire quand tu loupes une passe, quand tu ne fais pas les courses, quand tu n'apportes strictement rien, c'est pas forcément que le contexte. Je pense c'est aussi la qualité du joueur qui doit être remise en cause. Et pour les deux Espagnols que sont Ruiz et Soler, je pense vraiment que c'est pas une question de contexte, c'est juste qu'ils n'ont peut-être pas forcément le niveau. Surtout pour Soler, je pense que la marche PSG est un peu trop haute, parce que moi déjà à Valence, il m'impressionnait pas beaucoup. Hein. C'était un bon petit joueur, voilà, mais pour Valence, pour Séville, pour des clubs où il n'y a pas forcément une pression énorme, etc., où il fait bon vivre et que bah, tu peux passer à travers un match, on ne va pas forcément t'harceler dans la rue. Et Soler, voilà, pour moi, c'est au revoir parce qu'il n'a pas apporté grand-chose, mis à part des buts, mais ce n'est pas vraiment ce qui compte pour moi sur un terrain. Et Ruiz, bah, très déçu, comme un peu Barry. Je suis vraiment très déçu, je m'attendais à un autre joueur. Par rapport à ce que je pouvais voir de Naples, etc., et bah, très très déçu. Donc pareil, si on peut le garder pour jouer vraiment pour être en plein sang et pour être sur le banc et pouvoir dépanner de temps à autre, pourquoi pas. Maintenant, s'il veut partir, s'il y a un bon de sortie, s'il y a une offre qui arrive, bah, il faudra surtout pas hésiter. Et pareil pour Renato, je pense que ouais, voilà, avec les blessures qu'il y a, il n'y a pas de débat. Donc voilà, ça c'est pour moi les trois joueurs qui doivent partir s'ils peuvent partir. Ekitike, moi honnêtement, quand il est arrivé au PSG, je ne connaissais pas énormément, je n'avais pas joué énormément à Reims. Je ne suis pas Reims tout simplement, donc j'en avais entendu que du bien. Donc j'ai envie de croire que les gens qui m'ont dit que du bien ne sont pas forcément bêtes ou ne connaissent pas le foot. Je pense que même il y avait des grands recruteurs qui en parlaient en bien, donc je pense qu'il a des qualités. Peut-être que le PSG, pareil que Soler, c'est un peu trop pour lui, donc peut-être par un prêt, comme disait Paris, ça peut être la meilleure solution. Et ensuite pour Mukiele et Vitinha, pour moi je les garde, parce que je me rappelle très bien de Mukiele au début de saison où tout le monde le critiquait, où ça voulait déjà le vendre, il a vite fermé des bouches, et tant mieux, ça prouve que dans le football il faut être patient, et que bah, si tu loupes un ou deux matchs ou même trois matchs au début, c'est pas grave, c'est un joueur, ça se juge sur la durée et sur plusieurs mois. Et même chose pour Vitinha, il a commencé très bien la saison jusqu'en octobre, il a eu un petit coup de moins bien, un gros coup de moins bien même. Où vraiment moi je ne le reconnaissais pas, c'est le joueur tout timide que je ne connaissais pas du tout. Il m'a vraiment déçu sur 2023, mais même sur 2023 où il a eu la pire phase de sa carrière, parce que je ne l'ai jamais vu aussi neutre du moins, bah, sur les matchs qui comptent en Ligue 1, il a répondu présent contre Marseille et contre Lens. Les gros matchs, il a été là, contre Marseille il a été excellent, et contre Lens il est décisif. Donc voilà, ça prouve quand même une certaine qualité du joueur, et j'ai envie de lui donner encore... pas une seconde chance, parce que pour moi, il ne fait pas de mauvaise saison, loin de là. Y a un commentaire comme quoi il dit qu'il a fait plus de positifs que de négatifs, et je suis assez d'accord avec ça. Mais j'en attends mieux. J'en attends beaucoup mieux de Vitinha l'année prochaine. Il n'y aura plus l'excuse de s'adapter, etc. De, voilà. Et c'est vrai que vous l'avez dit, passer du FC Porto, qui est un grand club, au PSG, c'est quand même une autre dimension. Ce n'est pas la même pression. C'est pas la même... c'est pas que c'est pas la même pression, parce qu'il y a quand même une grosse pression au sein du FC Porto où tu dois gagner le championnat, sinon c'est une mauvaise saison. Les supporters sont peut-être même un peu plus chauds que ceux du PSG, mais voilà, c'est notre réalité, c'est notre pression médiatique, etc. T'es largement mis en valeur. Donc voilà, maintenant il y a eu sa saison d'adaptation qui n'a pas été mauvaise. Maintenant j'en attends beaucoup plus de Vitinha.
Bah, très, très rapidement pour clore ce débat, à moins, enfin, tu voulais dire un truc, Barry?
Ouais, juste parce que je sais que tu vas tirer sur Ekitike, je voulais juste rebondir
non, pas.
Je voulais juste
rebondir maintenant sur... Maintenant que tu me le dis, effectivement, je vais le rajouter dans le stock. Tu sais, c'était pas prévu, mais...
Non, juste, je voulais revenir sur une notion qui a été donnée. Alors déjà, c'est vrai
d'ailleurs, que... D'ailleurs, Riyad qui te dit bonjour à Barry. Hein. Je sais pas si tu as vu dans les commentaires.
Riyad, Barry, comment tu vas? Ça va et toi? Juste sur le Ekitike, par rapport à ce que disait, Alex, alors c'est vrai que... Il y avait beaucoup de recruteurs qui disaient du bien de lui. Et puis même, au niveau de ce qu'il faisait à Reims, il y avait des qualités. Maintenant, ce que tu regardes ce qu'il a fait à Reims et tu regardes ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain, bah, c'est complètement différent. Mm-hmm. Et la réalité, c'est que le joueur a besoin de temps aussi pour comprendre une chose. Et il y a une chose qui doit être indéniable. La signature au Paris Saint-Germain n'est pas la finalité. C'est le début. C'est maintenant que tu dois travailler. Il faut qu'il comprenne ça. Tu n'es pas encore arrivé. Et c'est vrai que quand le coach, on peut dire ce qu'on veut sur Christophe Galtier, mais sur le cas critiqué, le coach lui a donné la confiance et l'a fait jouer. Quand le coach te demande de te fixer en position d'attaquant et que toi, tu dézones comme si tu étais un carin, tu prends pour Kylian Mbappé, bah forcément, au moins, ça fait le cash. Donc, il faut qu'il travaille son mental.
Et il n'a pas les qualités aussi physiques. Mais bon, indépendamment, juste, je voulais juste pour Vitinha, pour moi, il y a un truc qui est très, très notable, c'est qu'on était en chien de Thiago Motta depuis 9 ans. Vitinha arrive après une saison où il apporte satisfaction et tout à coup il se retrouve dans un milieu d'un club qui a l'ambition de gagner la Ligue des Champions, à être tué notre sauveur, enfin on a trouvé un milieu, etc. La pression qu'il a dû se taper devait être monstrueuse et c'est inévitable qu'au niveau mental, pas... je pense qu'un Kylian Mbappé, un Nuno Mendes, ce genre de joueurs qui sont des fiori class trop jeunes auraient pu laisser glisser la pression sur les épaules comme de l'eau. Mais 99,99% de la population aurait eu une période de dur après, et c'est trop tôt pour tirer les conclusions. Et Soler, bien que je pense qu'il faille partir, j'ai juste envie de prendre sa défense par rapport à ce que tu as dit. Soler, c'est un joueur qui est très utile dès que tu as des mouvements dans ton équipe. Quant à ton équipe où il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'appels, beaucoup d'espace, que tu as des récupérations qui sont un peu plus hautes pour pouvoir lancer, etc. C'est un joueur qui voit très vite, qui fait ses passes très vite, ses passes sont relativement bonne qualité. Comme l'a rappelé Barry, c'est un joueur qui s'est frappé. Maintenant, quant à ton équipe qui joue en mode plot, effectivement, Soler te sert à rien. Ça t'apparaît très visible et c'est insupportable. Et moi, ce que je veux qu'il parte, c'est pas... Alors déjà, je suis d'accord avec toi. Pour moi, le niveau Paris, c'est peut-être un peu trop haut pour lui. Mais si je veux qu'il parte, c'est aussi pour lui. Il a rien à faire dans ce club. Il perd son temps. Et je pense que c'est un joueur qui a assez le foot pour avoir envie de continuer à jouer. Alors maintenant, j'ai envie de vous poser la deuxième partie de cette question. C'est que pensez-vous du recrutement de Campos? Par rapport, et je vais te lancer, là, pour le coup, je vais te lancer toi, Alex, parce que c'est toi qui le connais le mieux. Par rapport, tu sais, le joueur A', B', B', C', est-ce qu'on a retrouvé ça?
On l'a retrouvé, mais les gens ne sont pas assez bons, tout simplement. Je pense que son plan A, c'était Lewandowski, Bernardo Silva, Skriniar, et au final, il n'a pas eu la possibilité de le faire. Il a fait du coup du A'B, sauf que les A'B n'étaient pas forcément dans cette catégorie-là. Je pense que par exemple, un Soler qui était peut-être un A', un second plan de Bernardo, je ne sais quoi, pour moi, je ne le mets pas du tout dans la catégorie A', je le mets dans la catégorie B, voire B'. Et je pense que c'est là où il s'est trompé, c'est que ses pistes de priorité étaient très bonnes, vraiment de très grands, des classes mondiales, etc. Et ses second plans, voire troisième plans, n'avaient pas du tout le niveau du PSG. Et c'est, je pense que là, l'écart est trop grand entre ses pistes prioritaires et ses second plans. Et c'est là, pour moi, où il s'est trompé. Du coup, on peut parler de mauvais recrutement parce que la saison est quasiment finie, on ne va pas se mentir. Parce que quand il est arrivé, j'étais enthousiaste. C'est l'une des personnes que je préfère dans le football parce que pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce que j'ai lu sur lui, tout ce que j'ai pu écouter, ses nombreux podcasts, ses nombreuses interviews, je pensais vraiment qu'il allait faire du bon boulot. Maintenant, c'est que la première saison, il va en avoir une deuxième pour montrer toutes ses qualités ou pas. Mais moi, oui, ces recrutements m'ont déçu et j'espère que ouais, peut-être aussi, oui, peut-être que Valence a été pris pour, je sais pas, après il y a des choses qu'on ne maîtrise pas dans le football, mais en tout cas, je pense que ces pistes prioritaires n'ont pas pu marcher, et du coup, il a dû revoir un peu à la baisse ses prétentions et ses pistes.
Mais ouais, mais tu vois, par exemple, si on prend Monaco, j'ai oublié les clubs dans lesquels il était, peu importe, mais en gros, Lille. Il avait, oui, mais tu vois, ouais, par exemple, Lille, il se plantait pas justement sur les seconds couteaux. Alors que là, tu as l'impression qu'il s'est planté. Ok, d'accord, il n'a pas pu dépenser 800 millions. Ok, c'est génial. Mais en fait, avant, il n'avait jamais pu dépenser ces 800 millions. Moi, là où moi j'ai un vrai problème, c'est sur les dépenses moyennes qu'il a vraiment déçu.
Pardon. Ouais. Bah après, ça dépend parce qu'il y a des pistes à Monaco. C'est plan B. Les Ivan Caveiro, les Eder Costa, les je ne sais quoi. C'est des flops monumentales. Donc forcément, quand, de toute façon, un directeur sportif, un conseiller sportif a tout le temps des mauvaises recrues. Tu fais pas du 100%. Ça c'est clair. C'est juste moi en fait les pistes que je comprenais pas. C'est Carlos Soler. Je ne vois même pas comment tu peux t'y intéresser parce que comme tu l'as dit, ça ne correspond pas du tout au profil du PSG. Fabien Ruiz, pareil. Enfin, je pensais vraiment qu'il allait chercher un attaquant de pivot et après Ekitike qui n'est pas du tout ce profil-là. Je pensais qu'il allait prendre un vrai numéro 6, il en a pas pris. C'est vraiment sur le manque de profil. C'est pas sur forcément ces joueurs, c'est le profil que je m'attendais à beaucoup mieux de sa part parce que je pensais qu'il les avait identifiés et qu'il allait prendre des joueurs avec ce profil-là. Après, tant pis s'il se trompe, s'il prend le bon joueur, s'il prend le bon profil, mais que le joueur ne s'adapte pas, bon, à la limite, c'est pas trop grave. Mais là, c'est que les mêmes profils n'étaient pas du tout en équation avec ce qu'on voulait au PSG.
Mais je vais enchaîner avec Recoba. Quelle est ta lecture, toi, justement, sur Campos? Est-ce que le produit Campos qu'on nous avait vendu, tu l'as vu au Paris Saint-Germain?
Pour l'instant, non. C'est une évidence. Quand tu vois la gueule du mercato et les résultats aujourd'hui, les conclusions qu'on peut en tirer, c'est compliqué. C'est le petit point négatif qu'on avait, la petite question qu'on se posait. Est-ce qu'il allait savoir s'adapter au contexte PSG? Parce qu'il a fait du travail de qualité à Lille, à Monaco précédemment, dans ses autres clubs. Il n'avait pas connu de grands clubs, à part le Real, mais il n'était pas directeur sportif là-bas. Donc, on se demandait, est-ce qu'il allait pouvoir réussir justement au PSG? Et pour l'instant, non, pour l'instant, c'est raté. Alors, on ne parlera pas du tout de son mercato d'hiver parce que je pense qu'il vaut mieux pas. Mais pour quelqu'un qui a gueulé et qui voulait se réajuster au mercato d'hiver, faire zéro transfert et en plus en rater un à la dernière minute, c'est un peu abusé. Mais en tout cas, son mercato d'été, pour l'instant, c'est un flop. Et je suis d'accord avec Alex au niveau des profils. Je m'interroge parce que Campos, normalement, en plus de ça, c'est un mec qui aime prendre des joueurs qui ont du mental, qui ont du caractère, et qui savent s'imposer. Et encore plus, c'est un besoin primaire en plus dans un club, dans un contexte comme le PSG. Tu as besoin d'avoir des joueurs de personnalité qui savent, qui n'ont pas peur, qui vont venir, qui vont réussir, etc. Et quand tu regardes Fabian Ruiz, quand tu regardes Soler, quand tu regardes même Vitinha qui est très jeune, Mukiele, c'est pas ce genre de profil-là. Et forcément, quand tu ressors d'une saison où tu te dis nos meilleurs profils, nos meilleurs recrues, entre guillemets, ça a été Vitinha et Mukiele. Et en plus de ça, bah, y a eu une bonne partie de saison qui a été mauvaise pour Vitinha et ça reste un jeune avec qui on va devoir reconstruire parce qu'il va falloir ramener des tauliers à côté. Et un Mukiele qui reste quand même un remplaçant. Il n'y a pas un mec qui s'est imposé titulaire et qui a rendu une belle copie cette saison. Alors après, le contexte est compliqué. On le sait, la saison a été compliquée même pour tout le monde. Mais c'est clair que son mercato a été indigne d'un club comme le PSG et il va falloir clairement qu'il se rattrape sur ce mercato d'été-là.
Et pour toi, Barry, est-ce que les critères, la manière avec laquelle il a choisi ses joueurs étaient les bons? Est-ce qu'il devait faire mieux? Est-ce qu'il pouvait faire mieux?
Déjà, il a fait fort. Hein. Il nous a fait regretter Leonardo. Ça, j'ai jamais cru que c'était possible de le faire. Ça, tu vois, la première chose. Non, mais en fait, le truc, c'est que je veux pas non plus faire l'hypocrite. Tu vois, franchement, on va pas non plus faire l'hypocrite. Moi, lorsqu'il m'annonce Fabien Ruiz, c'est un joueur que je surkiffe à Naples. Donc, je suis très content qu'il arrive. Lorsqu'on m'annonce Vitinha, c'est un joueur que j'aime beaucoup aimé à Porto. Comme j'ai dit, je regarde beaucoup la Liga NOS. Et donc, j'aimais beaucoup de profils, un peu moins en Angleterre, mais j'ai beaucoup aimé le joueur que j'avais vu à Porto. Lorsqu'il m'annonce Renato Sanchez, alors je mets un bémol sur les blessures, mais je suis très content du joueur qui arrive et qui tiquait pareil. Donc je ne veux pas non plus cracher dans la soupe. Maintenant, la réalité, c'est qu'à l'époque, on avait déjà dit il manque des profils essentiels. Pour moi, il te manquait un numéro 6 de métier et potentiellement un milieu d'expérience. Et puis surtout, il te manquait un numéro 9 de grande classe. Peut-être pas forcément le haut du panier, un second couteau si tu veux, mais un très bon second couteau. Et ça, c'est une réalité. Il est manqué ces profils-là. Et pour moi, lorsque tu commences un mercato, avant même de vouloir prêter les joueurs, je ne vois pas le contrat de 5 ans. Ouais, mais après, de toute façon, le contrat de 5 ans, il n'est pas payé 10 millions, donc tu peux le vendre à tout moment, tu vois, ça, c'est pas un problème. Mais bon, bref, Tu vois, bref, c'est juste pour revenir. Il n'est pas au-dessus de ce qu'il gagnait au LOSC, donc tu peux toujours leur fourguer à droite à gauche. Mais par rapport à ce que je t'ai en train de dire, Marc, je me suis.
Campos.
Ouais, je t'en ben voilà.
Il n'est pas allé chercher les profils dont tu as besoin.
Même d'aller chercher avant même d'aller chercher les seconds couteaux, avant même de commencer le loft, avant même de commencer à prêter les joueurs, je suis désolé. Il faut aller chercher les références à son poste, tes titulaires. Tu ne peux pas construire un effectif avec uniquement des joueurs de rotation. Lorsque Vitier est arrivé, moi, je vous invite à revoir les lives. J'étais très content. Après, j'avais dit quoi ? Et je crois qu'Alex était là. On avait dit en titulaire, attention. Dès qu'il arrive, le poser dans une position titulaire, ça va être compliqué quand même. Et mine de rien, bah, tu veux poser qui à sa place ? Il n'y avait personne, il n'y avait que lui. Donc forcément, il devait être titulaire. Donc voilà, je pense que la gestion a été mauvaise. Et son mercato d'hiver, comme l'a dit Ricoba, on ne va même pas revenir dessus, vu qu'il n'y a pas de mercato d'hiver. C'est comme si la fenêtre n'a pas existé. On nous dit qu'il n'y avait que 15 millions. Je suis désolé, Campos, il est connu pour avoir un énorme portefeuille de joueurs. 15 millions, il t'en trouve des pépites. Il ne faut pas me dire des bêtises. Il a un gros réseau au Portugal. Alex, tu t'y connais quand même un peu mieux en termes de scouting ou autre. À 15 millions, tu as de quoi faire au Portugal. Tu n'as peut-être pas des titulaires en puissance, mais tu peux avoir un ailier droit qui peut s'épuler sur le banc. Et tu peux même avoir un numéro 9, ne serait-ce que par un prêt ou autre, que tu peux te faire prêter. Je prends l'exemple du petit 9 qui est annoncé comme un espoir au poste de numéro 9 au Portugal. J'ai oublié le nom, il s'appelle Fabio, je ne sais plus quoi, qui est prêté en
Angleterre.
Pardon ?
Fabio Silva.
Voilà, Fabio Silva qui a été prêté. Fabio Silva, c'est un très bon neuf. Alors, actuellement, il est jeune. Il a encore des choses à prouver, etc. Je ne dis pas qu'il peut devenir titulaire au Paris Saint-Germain, mais tu peux avoir une autre possibilité. Tu t'es planté sur Ekitike, bah, tu vas demander un prêt sur ce joueur-là. Et au moins, tu as un joueur sur le banc qui apporte un autre profil que Ekitike. Il ne l'a pas fait. Donc, à un moment, ça aussi, il faut dire les choses. Maintenant, est-ce que je tire la sonnette d'alarme ? Oui. Est-ce que je pense qu'il peut amorcer la cour de ce qu'il a fait ? Je pense qu'il a quand même un bon réseau. Je pense que c'est quand même un très bon directeur sportif. Donc, il peut t'amener des joueurs. Mais je pense que ce mercato-là, il est primordial. Si tu te loupes, ça va être compliqué pour toi, le Paris Saint-Germain.
Et juste pour compléter, je suis tout à fait d'accord avec lui quand il dit que c'est vrai qu'à la fin de l'été, quand tu as tous les noms qui sont cités qui arrivent au PSG, perso, moi, je ne suis pas mécontent. Au contraire, je me dis, bon, bah, c'est pas trop, trop mauvais, c'est pas trop mal. C'est, pourquoi pas, voilà, je suis pas mécontent. Maintenant, c'est vrai que quand tu regardes sur l'ensemble de la saison, c'est pas du tout un bon recrutement. Mais là où je suis déçu, c'est vraiment sur son intelligence de recrutement. C'est vraiment là où je l'attendais autant.
C'est là où je t'ai demandé de rebondir, en fait. C'est... Moi, la question, en fait, si tu veux, c'est... Ma lecture de Campos, c'était un mec qui avait des critères de jugement qui étaient très intéressants, et ça, j'en arrive vraiment à me poser la question dessus. Alors peut-être, hein, tu sais, il y a un autre truc qu'on n'a pas nommé ici, c'est le contexte. C'est-à-dire, est-ce que Campos est taillé pour un club comme le Paris Saint-Germain, alors qu'il était avant dans des clubs qui étaient moins surdimensionnés, qui étaient avec une dimension plus raisonnable? Et là-dessus, on n'aura pas la réponse, mais c'est une question qui vaut la peine d'être posée. Mais au-delà de ça, c'est ces critères de jugement, sont-ils toujours d'actualité? Et par exemple, il y a ces questions. Est-ce que le profil qu'a un Kylian Mbappé, cette ambition qui est folle, est-ce que pour vous, ça doit devenir un critère de jugement? Est-ce qu'on serait dans une position de devoir dire au directeur sportif, bah maintenant, il faut que tu intègres ces critères de jugement parce qu'il nous a déçus? Est-ce que tu vois, là, j'ai du mal à formuler ma question, mais est-ce que tu vois la question que je suis en train de poser? Je te laisse y aller.
Il vient de l'école Madrid quand même, Campos, hein, faut pas l'oublier. Il vient de l'école quand même Madrid. Et là, apparemment, il est annoncé du côté de Chelsea. Donc pour moi, juste après, avant de donner la parole à Alex, pour moi, me parler de contexte parisien, je suis désolé. Campos, il a quand même prouvé qu'il avait un gros réseau et qu'il avait.
Être à l'école, c'est autre chose.
Attends, je finis. Il a de gros joueurs sur son réseau qui ont pu péter ailleurs. Donc non, pour moi, c'est pas un gage de se dire que non, c'est le contexte parisien. Non, il s'est planté. Mais ça, je pense pas que forcément, il faut tout remettre sur la faute du PSG. Il y a aussi ça.
Je ne remets pas sa faute sur le PSG, c'est juste une question. Parce que ce contexte, oui, il a été en tant que, pas que adjoint, il avait sa société.
Entraîneur-adjoint, en réel.
Entraîneur-adjoint, ou même en tant que sa société de joueurs, elle a parfois traité avec des gros clubs, mais il n'a pas été nommément le directeur sportif, ou en tout cas dans les faits, d'un club de la taille du Paris Saint-Germain.
Non, en fait, Auréal était superviseur des équipes adverses. Donc quand il arrive dans le staff de Mourinho, il est superviseur des équipes adverses, et ensuite il prend un peu plus de part dans le scouting. Donc oui, c'est vrai qu'il a été confronté à la maison du Real Madrid. Maintenant, il était beaucoup moins exposé que maintenant. S'il se trompait, bah c'était pas si grave que ça, en fait. Alors que là, au PSG, c'est vraiment lui qui est mis en lumière, et que bah voilà, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, bah sur la saison, c'est lui qu'on pointe du doigt avec Galtier. Mais ouais, pour revenir ensuite, c'est juste sur je pense que je sais pas s'il était prêt pour le PSG ou pas. Je pense qu'il n'avait peut-être pas conscience de tout ce qui est de l'histoire PSG, de tout ce qui représente le PSG en France et de toute cette, je dirais pas mascarade, mais politique qu'il y a autour du PSG. Je pense qu'il n'en avait pas conscience. Je pense qu'il n'était pas préparé à ça. Je pense qu'il est arrivé un peu les mains dans les poches avec cette étiquette de j'ai raflé tous les titres que le PSG n'a pas gagné. Et je pense que voilà, je pense qu'il n'était pas peut-être prêt maintenant. J'espère qu'il sera prêt maintenant. Il y a eu un an d'adaptation. Pareil, si on demande de l'adaptation pour les joueurs, entraîneurs, et on peut aussi en demander pour le directeur sportif, maintenant, il ne faudra pas se tromper. Et là où je l'attends vraiment, c'est sur les pistes, c'est sur les profils qu'on recherche. Et je le répète, mais c'est un garçon qui parle souvent de puzzle quand il construit son effectif. C'est-à-dire que bah, si j'ai un latéral droit qui colle la ligne, je veux que mon ailier se recentre sur le terrain pour laisser le latéral droit. Si j'ai un latéral droit qui veut participer au jeu, à l'intérieur du jeu, je veux que mon ailier colle la ligne. Et moi, je n'ai retrouvé rien du tout de tout ça, des pistes de compos. Comme l'a dit Barry, comme j'ai pu le dire aussi, j'attendais un vrai numéro 6 pour jouer à côté de Vitinha, un vrai gratteur des ballons, de Verratti, pardon. J'attendais un vrai neuf pour jouer avec Mbappé, pour mettre en avant les qualités d'Mbappé, et j'ai rien vu de tout ça. Donc maintenant, quand je vois les pistes, je suis un peu plus rassuré, et on verra maintenant ce qu'il va nous faire cet été.
Mais justement, bah, Barry, au-delà du profil du joueur par rapport à où est-ce qu'il va jouer, au niveau mentalité, est-ce que pour toi, on devrait imposer des critères ? Alors, je sais pas, l'exemple de Mbappé, avoir un joueur qui a une ambition folle, qui l'amène à se dépasser, etc. Est-ce qu'on devrait imposer des critères au directeur sportif ou on devrait faire confiance au directeur sportif ?
Mais c'est logique. Et puis moi, j'ai même pas envie de parler de Kylian Mbappé. Pour moi, Kylian Mbappé est un joueur du Paris Saint-Germain. Je m'en fous de ce qui est autour de lui. Moi,
j'ai pas été clair dans ma question, peut-être.
Non, je crois, par rapport à tout ce qui se dit sur les réseaux ces dernières années, oui. Il faut qu'on se soit autour de Kylian Mbappé. Oui, c'est vrai. Maintenant, Kylian Mbappé, c'est pas non plus une fin en soi. S'il veut partir, il part. S'il veut rester, il reste. C'est pas non plus une fin en soi. Moi, déjà, avant même de penser au profil de joueur qui peut jouer autour de Kylian Mbappé, il faut penser au profil psychologique qui peut jouer au Paris Saint-Germain. Tu le vois dans les grands clubs. Je suis désolé. Mais à Madrid, tu as une cellule qui est dédiée à ça. Tu vois, qui cible les joueurs en fonction de. Déjà, avant même de parler de leur niveau de jeu. Est-ce qu'il a la capacité de pouvoir prendre l'institution Madrid sur les épaules ? Chelsea, c'est pareil. Tu peux citer tous les clubs, la Juventus, patati patata. Avant même ça, on te demande d'avoir quand même les épaules. Et c'est vrai que là, tu regardes les derniers joueurs. Moi, quand je regarde des mecs comme Fabien Ruiz, même si j'étais très content qu'il arrive, je regarde un mec comme Renato que je voulais beaucoup, mais psychologiquement, on le savait avant, on le sait encore plus maintenant. Vitinha. Pour moi, je ne suis pas d'accord, je ne sais pas si Alex l'a dit tout à l'heure, mais je crois que j'ai du mal à entendre. Il n'avait jamais montré qu'il avait un gros mental. Le seul qui avait, ne serait-ce qu'un mental, c'est comment il s'appelle ? C'est
Mukele. Tu fais quoi par mental, Barry ? Tu dis quoi par mental ?
Je te parle de mental, c'est-à-dire arriver dans un vestiaire de star, savoir s'imposer, comme Nuno Mendes a pu le faire, comme Hakimi a eu du mal, mais il a réussi à le faire à un moment. Je peux t'en citer plein. Kylian Mbappé, lorsqu'il arrive à 17 ans, il s'impose dans ce vestiaire-là. Alors, même si c'est la pépite mondiale, il s'impose quand même. Il faut quand même en avoir dans la tête. Et c'est vrai que les joueurs qui sont pistés, je suis désolé, le profil psychologique, j'ai pas l'impression qu'il avait été mis en avant au Paris Saint-Germain.
Et justement, et c'est ça la question, parce que Campos était connu justement pour faire ce taf-là. C'est ça le débat.
J'ai juste envie de dire une chose. Parce que pour moi, les grands joueurs, les profils psychologiques, c'est plus ou moins les mêmes types de joueurs qui vont au niveau du psychologie. Hein, je ne parle pas au niveau de profil de football. Tu prends un Vitinha, est-ce que tu penses qu'un Vitinha pourrait réussir à Madrid ? Tu prends un Fabien Ruiz, est-ce que Fabien Ruiz pourrait réussir au Bayern ? Je ne te parle même pas de la qualité du joueur, je te parle juste en termes mental. Bah pour moi, le seul qui a le mental pour pouvoir réussir ailleurs, c'est Mukele.
Barry, pour te contredire un peu, autant Vitinha, je pense que dans un vestiaire, c'est pas quelqu'un qui prend énormément de place. Ça, je pense que c'est quelqu'un qui est assez réservé et timide. Maintenant, dans le jeu, et c'est pour ça que je suis très déçu de lui, de ce qu'il propose depuis octobre 2022, c'est quelqu'un qui a toujours montré une grosse personnalité. Et pour jouer au FC Porto de Sergio Conceição, si tu n'as pas de personnalité, tu joues jamais avec Conceição. Crois-moi, c'est parce que c'est un mec qui est Conceição, c'est un mec qui a du caractère, qui en a encore peut-être plus que José Mourinho, qui vraiment, si tu n'as pas de personnalité, tu ne joues pas dans son équipe. Et c'est pour ça que moi, quand il arrive au PSG, je ne suis pas surpris parce que je me dis qu'il a la personnalité pour jouer au PSG. Et là, c'est là pour ça que je suis déçu, c'est qu'il n'a pas montré cette personnalité-là. Maintenant, j'ose espérer qu'avec un an de plus, avec de l'expérience qu'il va emmagasiner cette année, il montrera autre chose. Mais en tout cas, moi, son arrivée au PSG, sur l'aspect mental, je savais qu'il n'allait pas s'imposer en tant que leader dans le vestiaire, mais dans le jeu, je me suis dit qu'il pouvait jouer parce qu'il a joué dans le FC Porto de Conceição.
Mais regarde, tu parlais de.
On va laisser Rico participer un petit peu, Barry.
Je finis juste cette phrase-là. Tu parles de niveau de jeu à Porto. Est-ce que tu l'as vu très souvent cette saison, ce qu'il faisait beaucoup à Porto, prendre le ballon et remonter le ballon.
C'est pour ça que
tu Tu le vois plus. Il ne se déplace plus. Il n'apporte plus de course qu'il pouvait apporter à Porto ou même au début de saison. Il ne fait plus rien.
Malheureusement, quand tu arrives dans un grand club, tu vois, par exemple, ça me fait penser, par exemple, ce que vous dites, ça me fait penser à Marco Verratti. Quand il arrive, Marco Verratti, il a Thiago Motta à côté de lui. Et tout à coup, ça aide à son éclosion. Là, quand Vitinha arrive à Paris, il se retrouve sous les feux des projecteurs de manière vénère. Et du coup, c'est possible que ça l'ait tué un petit peu au niveau de la personnalité. Il y a à la fois le joueur qui va, enfin, ça veut pas qu'on parle de Mbappé, mais qui va faire du Mbappé, etc. Mais il y a aussi le joueur qui, si jamais il y a Mbappé à côté de lui, il est capable de briller. Et après, le problème, c'est qu'on en a peut-être pas assez, quoi. Rico, quel est ton avis justement sur les critères pour recruter un joueur et est-ce qu'on devrait les imposer au coach?
Ben c'est là où moi j'attendais Campos justement, comme je disais tout à l'heure, c'est que Campos en général, il recrute des joueurs, surtout pour un club comme le PSG, avec un minimum de mental, de caractère. Après, un Vitinha, comme vous parliez, oui, bien sûr qu'il peut faire l'affaire, mais en fait c'est un problème de globalité, c'est un problème de mix, de mélange. Tu as besoin d'avoir des cadres, tu as besoin d'avoir des leaders, mais nous on en a des leaders. Mais le problème c'est que nous on a des leaders négatifs. Les leaders que tu as dans le vestiaire et sur le terrain, c'est des leaders qui, soit ils ont des problèmes d'hygiène de vie, soit ils ont des problèmes parce qu'ils sont moins concernés, parce qu'ils n'avaient pas envie de quitter leur club et qu'ils sont plus concernés par la Coupe du Monde que par ton club. Tu as des joueurs qui sont des leaders, mais qui, comme Verratti, ont du mal à s'imposer et sont plus à l'infirmerie ou en soirée que concernés sportivement sur le terrain, à l'entraînement, etc. Donc, il est là le problème. Et du coup, quand tu accueilles des joueurs, alors bien sûr que tu as besoin d'avoir des joueurs qui savent s'imposer, qui ont du mental, qui savent résister à la pression, etc. Comme Mukiele a pu montrer notamment, parce qu'il était vraiment décrié au début de saison et finalement, il a réussi à s'imposer, à rectifier le tir. Et ça, tous les joueurs ne savent pas le faire. Mais derrière, quand tu as des Vitinha qui peut-être sont un petit peu plus faibles, entre guillemets, et pas, c'est pas vraiment ça, mais plus timides, etc., ces joueurs-là, comme Marco Verratti, quand il est arrivé, il était bien entouré par Matuidi, par Motta. Mais aujourd'hui, un Vitinha, il est entouré par qui? Il est entouré par des mecs à qui on entend « Ouais, Vitinha, il met un tampon à l'entraînement ou il ne fait pas la passe ou je ne sais pas quoi. » Et au final, il se retrouve bridé. Il est là le problème, c'est que ces joueurs-là qui ont besoin d'être bien entourés parce que dans une équipe, tu n'as pas que des leaders. Tu n'as pas que des leaders de terrain et des leaders de vestiaire. Tu as des joueurs aussi qui savent bonifier certains ballons, qui savent bonifier certains autres joueurs, etc., qui sont, entre guillemets, les maillons de ces grosses chaînes-là. Et si tu n'as pas ces maillons-là, ton équipe, elle ne marchera pas. Mais si tu n'arrives pas à avoir ces maillons-là et les mettre dans et les faire coller aux autres, tu n'y arriveras pas. Et un Verratti, s'il a autant bien marché avec Motta et Matuidi, c'est parce qu'il était aussi bien entouré. Ouais, donc, si Vitinha, tu ne l'entoures pas aussi bien, ça ne marchera pas. Donc, c'est une osmose, en fait. C'est une équipe, c'est une osmose, tout simplement. Et Campos, c'est un bâtisseur d'équipe. Exactement. Ouais.
Mais exactement. Ce que tu mets en avant, c'est le truc, c'est voilà, c'est pareil. C'est, mais après, le problème, c'est que si tu déroules ce fil, t'en arrives toujours à Nasser. Parce que si tu rentres là-dedans, tu rentres dans le vestiaire, puis tu rentres dans le 36-15 Nasser, puis etc. Et t'arrives toujours à Nasser. Et comme Nasser sera là, si tu veux, c'est une solution, c'est un fil sur lequel tu peux pas tirer. Donc il faut malgré tout essayer de trouver des solutions. Et c'est vrai que tu pourrais dire oui, le coach qui tu peux rajouter 10 000 critères. Si jamais il y a pas ce qui se met en place, c'est-à-dire une certaine cohérence, une certaine exigence, une façon de gérer la cohérence,
totalement. Vas-y, je termine après.
C'est juste par rapport à Campos, faut pas oublier, parce qu'on parle de mercato raté, etc. Mais on parle de Campos. Mais s'il veut virer un Neymar, il n'y arrive pas. S'il veut virer un Messi, il n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il a les Qataris au-dessus qui lui disent non, lui, tu touches pas, lui, tu touches pas, lui, tu peux rien dire. Et du coup, c'est compliqué de bosser correctement.
Il y a enfin ce message-là qui est dans ce sens-là. Mais bon, ça aussi, c'est un problème.
Après, je pense pas que Nasser soit tous les mots du Paris Saint-Germain non plus. Hein.
Non, du tout. Mais c'est pas le cas. Mais c'est celui qu'on peut changer, en fait. Alors que les autres mots, tu peux pas.
Et pour revenir à ce que disait Eric Oba, est-ce qu'il a tout à fait raison sur l'osmose d'une équipe? Et si tu achètes des joueurs, il faut ramener d'autres calibres à côté. C'est là aussi où j'ai été déçu par Campos. C'est quand il va à Monaco, il prend des Bernardo Silva, il prend des Lemar, mais derrière, il va chercher Moutinho, il va chercher des Ricardo Carvalho, il va chercher, je ne sais pas qui, il va chercher des Toulalan, des joueurs vraiment des leaders, des cadres d'investir pour les compléter de cette équipe-là. Quand il va à Lille, il va prendre d'accord, il prend Renato, il prend Thiago Diallo, mais il prend José Fonte, il prend Wilmaz, il prend vraiment des leaders, des vétérans, des cadres. Et là, au final, au PSG, il va chercher aucun cadre. Personne, c'est que des joueurs du même profil. Des joueurs qui ont été bons dans des clubs un peu moins médiatisés que le PSG. Il a acheté zéro profil de leader, de cadre. Et c'est là où je lui en veux, c'est parce qu'au final, il a fait un recrutement d'un directeur sportif médiocre et il ne nous a pas habitués à ça. Et c'est-à-dire que sur ses profils ciblés, ils ne sont pas bons. Simplement.
D'ailleurs,
attends, il y a quelqu'un qui a...
Parce que je ne sais pas si vous entendez le bruit derrière.
Oui.
Ouais.
Oh, arrête. Alors, excusez-moi. D'ailleurs, au vu des infos qui sortent dernièrement, on sait que Campos, il a quand même il a quand même dans son manière de fonctionner, il travaille pas mal avec les médias. Et c'est vrai qu'au vu des infos qui sortent, on nous dit souvent que le profil psychologique est mis en avant sur les dernières pistes. Par exemple, on parle de Todibo, on parle de ces mecs-là qui ont montré de grosses facultés mentales, en plus d'avoir des facultés techniques aussi qui sont très bonnes. Donc à voir, après à voir. Après, il ne faut pas non plus tomber dans la bêtise de se dire que ouais, il faut uniquement des joueurs avec des gros mentales, il faut aussi de très bons joueurs de football.
Il faut un équilibre. Mais le problème, c'est que l'équilibre, ça fait longtemps qu'on attend qu'il se reconstitue. Et bah, justement, Barry, tu arrives à comprendre où est passé Zaïre Emery?
En fait, moi, je l'ai dit sur Zaïre Emery, franchement, la gestion, je la comprends et je ne la comprends pas. Pourquoi je la comprends? Pour moi, Zaïre Emery sur le banc, ça ne me dérange pas plus que ça. Et je ne vous dis pas parce qu'il est moins bon que les joueurs qui sont titulaires. Ce n'est pas ce que je dis. Je pense que Zaïre Emery, aujourd'hui, il a le niveau pour être titulaire dans ce Paris Saint-Germain. Dans un Paris Saint-Germain où tu as beaucoup de très grands joueurs, je ne pense pas que Zaïre Emery il serait dans les discussions autant. Ce serait un joueur de rotation et on ne tirerait pas forcément la gueule. Aujourd'hui, les joueurs, ils ne sont pas bons. Maintenant, pourquoi je comprends la gestion? C'est que Zaïre Emery sur le banc, en sortie de banc, bah, les gars, c'est le seul qui peut apporter un profil différent. Moi, je suis désolé, mais si tu mets Zaïre Emery titulaire, tu as besoin d'avoir un profil, je sais pas moi, 70e minute, tu as besoin d'arriver à avoir un mec qui prend la profondeur sur le côté, avoir un mec qui peut perforer l'équipe adverse. Bah, Renato Sanchez, il est souvent blessé. Le seul qui peut le faire, c'est Zaïre Emery. Vitinha, tu le fais rentrer. Je ne pense pas que Vitinha il est capable de prendre la profondeur côté droit ou de prendre la profondeur même dans l'axe. Fabien Ruiz, pareil. Carlos Soler, pareil. C'est vrai que c'est, même si Vitinha, je l'ai vu à Portofer, mais c'est sur des courtes distances. Tu vois, il n'est pas capable de prendre le ballon, de se projeter en avant et de, par ses qualités athlétiques, remonter le ballon. Warren, c'est le seul qui peut faire ça. Et je vous invite même à regarder les dernières entrées de Warren, lorsqu'il est rentré encore, parce qu'actuellement, je pense qu'il ne le fait pas rentrer parce qu'il a le titre à sécuriser. Mais lorsqu'il rentre encore, notamment contre le Bayern et avant, bah, tu voyais que le gars rentrait et c'était limite un ailier droit. Il prenait vraiment le côté droit. Le premier but qu'il met Warren, il fait un appel dans la profondeur côté droit. Et ça, c'est, et mine de rien, les Fabien Ruiz, les Vitinha et tous les autres joueurs côté au milieu de terrain, ils ne peuvent pas apporter ça. Donc Warren, je le vois actuellement utilisé comme un super sub. Donc c'est là que je comprends. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est que là, dans les derniers matchs, il ne joue plus. Et là, on ne comprend plus rien. Il est en pleine progression et puis tu ne fais plus jouer. Donc il va stagner à un moment.
Alors, Rico, vas-y, rebondis.
Alors, mais moi, je comprends absolument pas la gestion. Je pense qu'il y a eu un souci dans l'équation parce que, à un moment donné, alors il y avait les blessures, etc., mais il y avait aussi son niveau de jeu et les rentrées qu'il faisait qui ont fait qu'il a été titulaire face à Châteauroux. Il y a des matchs où on l'attendait titulaire, finalement, il n'était pas titulaire, alors que c'est des matchs qu'il aurait dû jouer. Il y a des matchs où il devait rentrer, finalement, il n'est pas rentré, mais au final, il a eu une période où il y avait quand même du temps de jeu. Il a débuté face au Bayern, je crois, ou en tout cas, il avait beaucoup joué face au Bayern. Après, il a démarré titulaire aussi contre Rennes, je crois, où il était rentré contre Rennes. Enfin, il y a un moment donné où il avait vraiment pas mal de temps de jeu et où on disait, bon, sachant le niveau qu'il affiche, il faudrait qu'il soit titulaire. Et il avait du temps de jeu. Soit il rentrait, soit il était titulaire. Et depuis, il a complètement disparu, alors que pourtant, pas de blessure, rien du tout, hein, mais il a complètement disparu. Et moi, je ne comprends pas. Encore une fois, là, il rentre au dernier match, il rentre à la 85e ou 88e. Barry l'a très bien dit, ça peut être un super sub. Moi, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Il peut apporter en rentrant, et on l'a vu d'ailleurs, hein, à chaque fois, sur 5 minutes, il apporte beaucoup. Donc, pourquoi tu ne le fais pas rentrer 20-25 minutes à chaque fois? Même des matchs où tu mènes 3-4-0, 2-0, ce que tu veux, il ne rentre pas, ou il rentre 5 minutes à la fin. Des Garbi, c'est pareil. Garbi, il est rentré face à Lyon. On ne le voit pas finalement les matchs d'après. Donc, il y a plein de choses comme ça, je ne comprends pas.
Brico, lis le commentaire.
Exactement, à le niveau pour débuter un match avec des champions. Mais c'est ouais. Ça, mais c'est qu'il y a une période, à un moment donné, il jouait. Et en plus de ça, oui, effectivement, Galtier a déclaré qu'il avait le niveau Ligue des Champions. Donc, un joueur qui a le niveau Ligue des Champions et qui connaît une période où il commence à intégrer l'équipe, à jouer, à même être titulaire, il disparaît complètement alors que lui, il n'a rien fait, il ne joue plus. Pourquoi? À mon avis, il y a eu un problème, forcément, il y a eu une cassure avec Galtier au niveau des jeunes. Hein. Je parle globalement, pas que lui, mais je pense que
soit Chadaï, Garbi ou Smith. Et t'as vu ce que l'équipe ils ont dit aujourd'hui, excuse-moi de te couper. L'équipe ils ont dit quoi hier soir? Ils ont dit que apparemment Galtier fait moins jouer les jeunes parce qu'il sécurise le titre.
Ouais, mais si il sécurise le titre avec des joueurs qui sont moins bons que certains jeunes, c'est ça, je comprends pas. Mais et tu sécurisais pas le titre avant quand tu faisais rentrer Zaïre Emery et qu'il a été titulaire face à Rennes, etc. Enfin, je comprends pas. Mais en tout cas, pour moi, il y a eu une vraie cassure à ce niveau-là parce que je pense que les jeunes. À un moment donné, à force de toutes les déclarations de Galtier, les mauvais traitements ou je ne sais quoi, ou les incompréhensions qu'il a pu avoir et certaines déclarations où il a clairement pointé du doigt les jeunes, Je pense qu'il y a une vraie cassure. Je pense qu'il y a une cassure entre Galtier et les jeunes et qu'aujourd'hui, il ne joue plus. Après, c'est mon avis, mais en tout cas, je ne comprends pas pourquoi on est passé d'un Zaïre Emery qui joue pas mal et de plus en plus à il disparaît complètement et à rentrer deux minutes sur un match.
Tu veux réagir là-dessus, Alex ?
Ouais, je pense pas qu'il y ait une cassure. Je pense juste que Galtier n'est pas un entraîneur qui fait confiance aux jeunes, tout simplement. Que ce soit à Saint-Etienne, que ce soit à Lille, que ce soit à Nice, que ce soit à Paris. C'est un entraîneur qui a du mal à faire confiance aux jeunes. Tu as des entraîneurs comme ça qui préfèrent des joueurs un peu moins bons, mais qui ont de l'expérience plutôt que l'inverse. C'est ce que je comprends pas du tout. Et c'est ce que je reproche beaucoup, notamment aux entraîneurs portugais. Et voilà, c'est là aussi l'incohérence de prendre un Galtier. Et pour dire ensuite, ouais, on veut faire confiance à la formation. Je parle là de Luis Campos, même sur son choix d'entraîneur, il n'a pas été cohérent. Et du coup, ouais, pour le cas Warren, c'est typiquement la gestion d'un mauvais entraîneur, d'un entraîneur qui ne sait pas s'y prendre avec les jeunes, c'est-à-dire je te fais jouer un petit peu, je te mets titulaire dans certains contextes qui n'ont pas lieu d'être, ensuite je ne te fais pas jouer, ensuite je te remets un peu 5 minutes. Enfin, moi je trouve pour la progression d'un jeune,
c'est El Shaddai.
Ou El Shaddai aussi, donc c'est pour ça que bah, tu ne peux pas gérer un jeune joueur comme ça, et n'importe quel joueur d'ailleurs, si tu ne lui donnes pas un enchaînement de match, ne sera pas bon. C'est pour ça qu'on peut être critique avec beaucoup de joueurs, mais quand un joueur joue 5 minutes tous les 15 jours, et ensuite il va jouer 90 minutes quand il sera titulaire et qu'il n'est pas bon, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit performant quand il joue pas si souvent. Donc voilà, c'est une très mauvaise gestion. Maintenant, il a 17 ans, donc on va pas tirer sur la sonnette d'alarme. Même pour lui, ça n'a aucun intérêt de partir maintenant ou de vouloir partir. Voilà, c'est juste un entraîneur. Il n'est pas tombé sur le bon entraîneur lors de sa première saison en pro, mais il a encore tout le temps devant lui, tout l'avenir devant lui. Et je pense que le prochain entraîneur lui fera davantage confiance.
Alors, on a dépassé l'heure, donc on va, il nous reste une question à traiter. En plus, c'est une question bien polémique. Mais on va essayer d'y répondre rapidement. On va commencer par Barry. Est-ce que pour toi, c'est un titre remporté avec des exploits individuels ? T'as pas ton micro, Barry ?
T'as pas ton micro.
Ah, c'est une question à laquelle j'ai répondu en plus hier avec un tweet. Bon, en fait, oui, des exploits individuels. Maintenant, voilà, quand t'as 10 manches joueurs dans ton collectif, forcément, ils vont prendre toute la lumière. Maintenant, le problème, c'est que t'en as 3 devant qui sont énormes. Et derrière, il y a un tel écart de niveau entre tes très très grands joueurs et tes autres joueurs, bah, que tu sens un peu plus l'individualisme pour Paris Saint-Germain. Maintenant, la vraie question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que, parce que moi je l'ai vu passer sur les réseaux, est-ce que le PSG mérite son titre ? Bah oui, ils ont gagné les matchs, ils méritent partout. Tu vois, cette question pour moi elle est complètement débile. Je suis désolé, hein, bah, c'est pas contre toi, Adrien, mais la question que j'ai vue passer de l'autre imbécile de comment il s'appelle, l'autre idiot là, de Nabil Djellit, qui disait que le Paris Saint-Germain gagnait son titre par défaut. Non, t'as 38 journées dans
la tête. C'est pas la même chose. C'est pas dire que Paris ne mérite pas son titre. Ça veut dire qu'il y a personne qui serait. En fait, personne n'était capable de remporter le titre. Et du coup, c'est échoué à Paris parce que.
Je vais parler factuellement. Le Paris Saint-Germain est premier depuis la première journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain est premier en termes de points sur la première partie du championnat. Le Paris Saint-Germain est premier ex aequo sur la deuxième partie du championnat avec l'OL. Les gars, à un moment, si les autres équipes n'arrivent pas à aller chercher la victoire devant un Paris Saint-Germain malade, comme a pu le faire le LOSC, pas Monaco, parce que Monaco était vraiment exceptionnel, mais le LOSC, ils ont pu réussir à aller chercher des points quand le Paris Saint-Germain a laissé. Je suis désolé, c'est pas la faute du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain mérite complètement son titre. Il y a 38 journées, ils ont gagné le plus de matchs, ils ont le plus de points. Ils sont
champions. Barry, même pour te compléter, il y a quelque chose d'encore plus factuel. C'est qu'on est tous d'accord pour dire que Lens réalise la meilleure saison de sa carrière, enfin de sa vie. Lens, tout le monde est unanime pour dire qu'il reste la meilleure saison de leur histoire. On dit tous que Lens.
Ils ont déjà gagné la Ligue 1.
Sur les dernières années, c'est sûr qu'ils étaient en Ligue 2.
Et le record de points, c'était 68 de Lens.
On est tous en train de dire que Lens et Marseille font des top saisons, et même comme ça, ils sont à 9 et 8 points. Donc au bout d'un moment, comment on peut me dire que le PSG ne mérite pas
son titre ? Après, tu as ce Paris Saint-Germain, il a gagné énormément de points en début de saison, parce que s'il ne gagne pas énormément de points en début de saison, sur la deuxième partie de saison, mais vas-y, Réco.
Non, moi j'aimerais, alors je suis complètement d'accord avec vous, du coup, c'est clairement pas un titre par défaut. Saison de Lens,
la question
initiale, oui, voilà,
c'est ce que j'aimerais répondre. Est-ce que c'est un titre remporté sur des exploits individuels ? Je sais pas pourquoi on est parti sur le mérite. C'est un titre remporté sur des exploits individuels.
Voilà, je vais dessus, c'est un malade ce gars-là, il m'a vénère avec son tweet.
Pour moi, la réponse, elle est oui, on a remporté ce titre grâce à nos exploits individuels. Parce que, alors déjà, le PSG, on voit qu'en termes de jeu, c'est très pauvre et qu'à chaque fois, ça se repose sur nos exploits individuels. Et surtout, c'est factuel parce que quand tu regardes les résultats qu'on a eus, alors, il y a eu cette phase, on va dire, allez, 2 mois pour être gentil, de septembre-octobre, où collectivement, on a été bon, on a gagné nos matchs, on a mis des scores, des tarifs, et on a été bon. Mais depuis, on va dire octobre, pour être gentil, parce qu'en vrai, c'est que septembre, mais depuis octobre, mais c'est très faible. C'est très faible. Et les matchs, tu les gagnes à chaque fois de très peu. Il y a, et même contre 3, les grands matchs, tu les perds. Et les matchs contre les petites équipes, les 3, tu gagnes d'un but à chaque fois. 4-3, 2-1, 3-2, ce que tu veux, dans les dernières minutes, etc. Et ça a été énormément ça. On l'a vu face à Lille, exploit de Messi, exploit d'Mbappé. Face à 3, exploit d'Mbappé, exploit de Messi. Même Montpellier, Hakimi, qui marque voilà, de loin, etc. Alors qu'on est dans la mouise. Donc, toute la saison, à part septembre-octobre, ça a été ça. Ça a été des victoires très courte sur des exploits individuels. Donc, pour moi, évidemment, il n'y a pas eu de victoire vraiment collective, de prestations abouties. Ça a reposé que sur nos exploits individuels. Et donc, pour moi, c'est un titre mérité, mais qui repose de nos exploits individuels.
D'ailleurs, on n'a jamais été aussi nul. Hein. Je pense que depuis celui qui est ici, on n'a jamais été aussi mauvais dans le jeu. Hein. Mais oui, c'est, mais oui, pour répondre à ta question, oui, on a gagné ce titre sur des exploits individuels. Oui, maintenant, moi, je suis désolé, les joueurs individuels font partie du collectif. Et comme je l'ai dit juste avant, il y a un tel écart entre tes immenses joueurs et les autres que forcément, l'individualisme, tu le vois de plus en plus. Ton micro, il est coupé, Dreyas. Ton micro est coupé, Dreyas. Ton micro est coupé, Dreyas.
Merci. Là-dessus, c'est pas si sûr, parce que si tu n'avais pas fait cette première partie de saison, est-ce que tu aurais fait cette deuxième partie de saison? On n'en sait rien. Mais en première partie de saison, tu mets une avance monstrueuse. Et, mais très rapidement, enfin, tu vois, pour moi, le symbole, c'est ce match contre Lille. On se voit sublime après, parce qu'on a gagné avec un score fleuve, mais pendant une demi-heure, tu te fais bouffer, tu ne vois pas le jour. Mais littéralement pas le jour. Alors que tu as marqué un but à la première minute et pendant une demi-heure, tu te fais bouffer. Et quand tu mets le deuxième, bah, tout à coup, le match, il devient plus facile. Il y a beaucoup plus d'espace, etc. etc. Et toi, même au début de la saison, en fait, l'animation offensive, elle n'était pas vraiment là. Quoi. Et pour moi, donc, on était plein d'espoir. Mais cette deuxième partie de saison, tu fais ça toute la saison, tu n'es jamais champion, hein, Barry. Tu es juste jamais champion. Et quand on parle deuxième partie de saison, elle commence. Alors après, il y avait un message, un com qui était très juste, qui dit qu'on a été bon au moment de la Coupe du Monde. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on avait un Messi exceptionnel. Quoi, mais
j'ai une question pour Andreas. On prend uniquement la deuxième partie de saison. Tu sais qui est premier du championnat? C'est le PSG, derrière, c'est l'OL. Non, c'est le PSG. Ah. Le PSG en passant devant Lens.
C'était Reims avant Nice, ouais. Je crois.
Le PSG en battant Lens et Reims a perdu son match. Le PSG est premier ex aequo avec l'OL. Tu peux regarder, hein, je l'ai vérifié.
Ah, je crois. J'étais persuadé qu'on était quatrième ou cinquième, mais peut-être que c'était que les 10 dernières journées.
Le PSG est premier en surclassant toutes les équipes durant la première partie post-Coupe du Monde. Pré-Coupe du Monde, pardon, et post-Coupe du Monde, le PSG est premier ex aequo avec l'OL. Donc, en fait, au final, comme je dis, le PSG est malade. Bah oui, l'OL est juste, en termes de points gagnés sur la deuxième partie de saison, l'OL est juste derrière le PSG. Je te parle pas en termes de classement. Si tu prends uniquement les premières parties et les deuxièmes parties. Hein. Donc, comme je l'ai dit, le PSG est malade, le PSG a beaucoup de problèmes, mais c'est pas la faute du PSG si les équipes comme Lens, comme Marseille, n'arrivent pas à venir te chercher. Moi, je suis désolé. Les points gagnés contre les petites équipes, tu disais, Ricoba, tu gagnes avec, dans la difficulté contre 3. Je sais pas si tu perds le match contre 3, tu gagnes.
Hein. Tu gagnes 4-3.
Tu gagnes 4-3 dans la difficulté, mais tu vas chercher les 3 points. Quand tu regardes les autres équipes comme Marseille avait la possibilité de revenir à 3 points Paris Saint-Germain.
Ils ont flanché à chaque fois.
Ah oui, non, mais ça, on est d'accord, de toute façon.
Tu vois ?
Ah non, non, pas du tout. Ah non, non.
Ah oui.
Non, moi, je répondais simplement à la question, est-ce qu'on a gagné collectivement
individuellement ? On va écouter Alex, il n'a pas parlé.
Et même en termes de points pour compléter Paris, si on finit, je pense qu'on peut finir la saison à plus de 90 points, c'est juste fou. Enfin, au bout d'un moment, juste comptablement parlant, juste pour parler du mérite, après je reviens que sur le collectif, ça reste un titre largement plus que mérité. Et surtout que même sur des Marseille et Lens qui font des excellentes saisons d'après tout le monde, on leur met 8-9 points et c'est pas 3 points d'écart. Donc à partir de là, je pense que le titre est plus que mérité. Maintenant, pour répondre à la question initiale, forcément, comme a dit Barry, quand tu as des 3 individualités comme ça devant, forcément tu gagnes par grâce à tes individualités, parce qu'il y a un trop gros écart entre ce que sont les autres joueurs et ce que peuvent apporter les 3 de devant. Donc forcément, on pouvait s'attendre à ce qu'au niveau collectif, on se régale pas vraiment, même si le début de saison, on pouvait espérer autre chose, nous a fait espérer autre chose, du moins. Mais malheureusement, ça fait quelques années que le PSG se repose sur des individualités, pardon, et c'est pour ça peut-être qu'on a notre plafond de verre en Ligue des Champions. Ça marche en Ligue 1 parce que on est beaucoup trop fort pour cette Ligue 1, à part sur 3 saisons où on a perdu le titre, mais sur le reste de la saison, on est beaucoup trop fort pour cette Ligue 1. Mais il va falloir peut-être un moment quand même penser à construire des collectifs plutôt que des individualités.
L'OM en reconstruction,
ça fait. On est là depuis 1h14, ça sera le mot de la fin. Je trouve que la conclusion d'Alex, elle est parfaite. Est-ce que ça vous va? C'est le mot de la fin
ou juste une chose, je voulais juste revenir sur le commentaire. L'OM en reconstruction, là c'est la tour dans GTA 5 qui veut jamais, qui est toujours en construction. Il faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Depuis ils sont deuxième du championnat, arrêtez un peu. Et reconstruction de quoi? Ils sont troisième du championnat, arrêtez les blagues.
Ils sont en reconstruction. Et ce message est très vrai. C'est-à-dire que cette année, si tu veux, on n'attendait pas forcément l'OM à ce niveau-là. Par contre, tu attendais Monaco plus haut. Et moi, je trouve que message est tout à fait à propos. Pablo,
on
verra l'année prochaine, mais bon. On oublie le commentaire. La conclusion d'Alex était la conclusion. Sur ce, merci beaucoup d'avoir été là. Je ne l'ai pas fait une seule fois aujourd'hui. Je n'ai pas demandé les likes, mais mettez les likes. C'est bon pour le référencement. Ça nous aide. Ça ne vous coûte rien. C'est juste un petit geste. Vous le faites. Et puis, comme ça, on n'a pas besoin de le répéter. Merci à tous. Abonnez-vous aussi. La cloche et tout le dawa. Je dis ciao à Rico, Alex et Barry qui m'ont accompagné ce soir. Merci tout le monde. Et ici, c'est Paris. Ciao.
Ciao, ciao. Merci du chat.